Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
RMC, l'After CAN.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, c'est l'After CAN en direct d'Abidjan après le 8e jour de compétition ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes là avec vous, les supporters des équipes africaines, les fans de foot en général. L'After, première radio de France, premier podcast de France est en Côte d'Ivoire. C'est la troisième étape de notre grande tournée internationale de l'After après l'Algérie, après l'Espagne. Nous voici en Côte d'Ivoire avec ce soir Aurélien Tirsain, reporter à RMC Sport. Aurélien, bonsoir.
Salut à tous.
On a avec nous ce soir également Mohamed Bradji, qui est journaliste algérien. Mohamed, bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Aurélien, bonsoir à tous les auditeurs de l'After.
Dans un instant, Sébastien Bassong arrivera, international camerounais, ancien joueur de Metz, Tottenham, Norwich. Voilà, mais là, regardez les matchs, hein, donc il faut pas qu'il arrive. Il arrive ici.
Ouais, si on est cool, hein, Gilbert, en Côte d'Ivoire. Hein, c'est toujours, voilà, il y a un petit délai, toujours.
Ouais, enfin, l'After, ça démarre, on arrive
en
précise.
C'est vrai.
C'est normal, on va pas démarrer en retard. Parce que si moi j'arrive en retard, on fait comment?
Tu vois, on prie.
Quand Stéphane Guy arrive en retard, bon, c'est éventuellement passé. Il se prend 10 euros d'amende. Bon, alors, l'événement ce soir dans l'After, bien sûr, ce sont les matchs du jour, surtout celui de l'Algérie. On va le débriefer en longueur face au Burkina. Tout à l'heure, les réactions d'après-match, Belmadi, Mahrez et les autres. Les choix de Belmadi, les circonstances du match, tout ça dans l'After dans quelques instants. Et puis, on parlera également des autres infos du jour. On parlera d'Aliou Cissé, notamment, qui a retrouvé son équipe ce soir. Et puis les matchs de demain, notamment demain le Maroc face à la RDC, ce sera l'affiche demain ici à Abidjan. L'After CAN jusqu'à 1h30 du matin comme tous les soirs, c'est parti.
Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan.
32-16 supporters algériens, on vous attend parce qu'il faut qu'on partage avec vous ce que vous avez pensé de ce match. On va faire une vraie évaluation depuis les choix de Belmadi jusqu'au fait de match, au coaching, aux réactions d'après-match. Aurélien, Mohamed, allons-y. Alors, petit élément de mathématiques pour démarrer. Rien n'est foutu pour l'Algérie. Qui va jouer son dernier match contre la Mauritanie, qui est bon, bah, malheureusement à deux défaites. Voilà, donc la Mauritanie out of order. Franchement, Aurélien, on a du mal à envisager que l'Algérie se qualifie pas quand même.
Ben c'est ça, et surtout le résultat est décevant évidemment, mais dans le jeu et dans l'envie, ils ont pas baissé les bras déjà, parce qu'à un moment donné, tu te dis bon là, ils ont pris le penalty, ils reprennent des buts casquette comme le premier match ou contre l'Angola. Voilà, le penalty sort un peu nulle part, c'est Bentaleb qui fait n'importe quoi. Là, c'est Aït Nouri. D'ailleurs, tu l'as dit en préambule, l'arbitrage a été nickel depuis le début de la compétition. Il y a le VAR, le pénalty est sifflé.
Pas selon les Algériens, on va en reparler dans quelques instants.
Oui, alors ça a aidé d'un regard extérieur. D'un regard extérieur. Mais dans l'ensemble, voilà, ils ont pas lâché l'affaire, alors qu'il y a quand même des joueurs, on en reparlera longuement, mais qui sont passés à côté. Mahrez, évidemment, on se demande quand est-ce qu'il va rentrer dans sa compétition. Mais ils ont continué à aller de l'avant. Bounedja, moi, j'aime beaucoup parce que il a déjà marqué 3 buts. Il aurait pu en marquer 4 s'il n'y avait pas eu un hors-jeu de 3 cm pour un retourné magnifique. On les sent pas dans la dynamique de 2021, pardon, quand ils sont fait sortir au premier tour. Les résultats sont à peine meilleurs, mais on sent quand même que dans le jeu, il y a quand même du mieux, même si voilà, il y a des joueurs qui sont passés à côté. Tout n'est pas à jeter, comme lors du premier match. Bon, bah, à un moment donné, va falloir gagner quand même, va falloir savoir obtenir le résultat.
Mohamed, là, t'es pas inquiet pour la qualification, rassure-nous, quand même.
Non, je partage l'analyse d'Aurélien, c'est-à-dire que bon, c'était un match capital, on va pas dire un match décisif comme le disait Belmadi, c'est-à-dire que la qualification reste encore.
Bah s'il gagnait là, il était qualifié parce qu'avec 4 points,
bien sûr,
il aurait été meilleur troisième.
Si tu prends même le cas de la CAN 2021 avec 3 points, t'avais la Tunisie, les Comores qui passaient, donc c'était pas non plus c'était un soir de drame, tu vois, on n'était pas sur mars 2022 avec le match contre le Cameroun qui reste encore dans toutes les mémoires. Non, je pense qu'on a abordé ce match de la meilleure manière qui soit, avec autant d'intention que lors de la première mi-temps face à l'Angola. On a vu très vite l'Algérie prendre un peu le dessus sur les débats, avec Belaïli très actif sur le côté gauche, un peu plus de combinaisons qu'on en a vu lors du premier match. Derrière, on aurait aimé que cette domination se concrétise. Cependant, tu as ce premier but. Là aussi, on va peut-être un peu en reparler, mais il y a un vrai problème pour moi au niveau de la défense avec l'équipe algérienne. Derrière, le match se déroule. Par rapport à l'arbitrage, ça fait débat. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'aurais pu penser qu'il y avait une faute sur Bounedjah en première période, et après la situation de main générée par Ounas, enfin avec le défenseur burkinabé qui la contre, c'est un peu litigieux. Donc après, voilà, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Mais tu en ressors de là, non pas avec une forme de déception, enfin si, tu peux, parce que tu peux te dire que le match, tu pouvais le gagner, mais on n'est pas dans la même situation qu'à l'issue du second match en 2021 face à la Guinée équatoriale, où là tu vois que c'est foutu, où tu vois que même dans l'état d'esprit, dans la réaction des joueurs, dans le discours de l'entraîneur, que ça paraissait très compromis. Là non, la qualification reste possible, t'as le destin entre tes mains, t'as le prochain match face à la Mauritanie. La Mauritanie peut encore se qualifier, comme je dis, meilleur troisième à 3 points, ça peut être jouable en fonction des résultats des autres groupes. Mais
oui, tu as raison de le préciser ça. Tout à l'heure, je disais qu'ils étaient out of order.
Mais on évoquera, tu vois, moi, dans la réaction des joueurs, dans la réaction aussi des supporters, j'ai parfois un défaitisme et une dramaturgie que moi, j'arrive pas à comprendre.
Ah non, mais là, revenir au score, c'est le principal. Parce que à 2-1, tu as l'impression qu'ils étaient 6 pieds sous terre et ils arrivent quand même justement à avoir ce surplus de combativité et la tête sur Bounedjah. Franchement, moi, j'y croyais plus. Tu te dis, bon, voilà, c'est fini, ils vont repaumer, ils vont mettre la tête sous l'eau et c'est terminé, ils vont se mettre le feu. Mais le fait revient au score, ça sent bon.
Messieurs, dames, il est là. Arrivé tel une star camerounaise.
Franchement, en ce moment, star camerounaise, ça sonne
pas. Ça passe pas.
Ah, ça passe pas trop, non.
T'as une star de la première ligue.
Ouais, c'est mieux.
Voilà, ça fait plus classe. Sébastien Bassong, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'After.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
On avait fait ta connaissance à Argenteuil il y a quelques mois. C'était sympa. Là, t'es de retour. Avec nous, tu bosses pour une télé ici, hein, t'es consultant.
Je suis un peu consultant, on essaie de se balader un peu partout. C'est pas mal, on reste occupé. Ouais.
Bon, alors, excuse-moi, mais on va être obligé de parler du Cameroun tout à l'heure.
Pourquoi tu t'excuses, y a pas de problème.
Là, parce que ça peut être irritant un peu, quoi. C'est pour ça.
Ouais.
Mais là, on démarre sur l'Algérie. Et on avait démarré l'analyse sur toi. On disait qu'en fait, bon, même s'il n'y a pas eu de victoire pour l'instant, on est évidemment pas inquiet pour la qualif. Tu partages ça va passer, quoi.
Non, ça va passer, surtout qu'on est dans une compétition à 24 équipes, donc au final, ça laisse un peu plus de marge de manœuvre pour toutes les équipes. Ouais, l'Algérie, doucement, ils commencent doucement. Ouais, ils vont passer par la petite porte, je pense, et c'est ce qui va aller peut-être leur permettre de se réveiller après.
Il y a un truc qu'on n'entendait pas après les premiers matchs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Algérie, c'est qu'en fait, il y a deux compètes, c'est-à-dire que tu passes le premier tour, que tu passes troisième, deuxième ou premier au fond. Bon, c'est toujours mieux de passer premier. Peut-être que tu auras un adversaire plus facile en huitième, mais l'Algérie du huitième sera peut-être transfigurée comme la Côte d'Ivoire et d'autres, quoi. Je sais pas comment tu le vois, toi, mais on a l'impression quand même qu'il y a deux compètes.
Si, il y a deux compètes. Pour moi, les matchs de poule, après, c'est un peu comme, on va dire, pas un galop de chauffe, mais pour que les grandes équipes rentrent dans la compétition, c'est les derniers réglages et c'est les moments où tu peux un peu te permettre de faire des erreurs. Après, quand tu arrives au match à élimination directe, c'est souvent les grandes équipes avec les joueurs qui connaissent ce genre de situation, bah, qui savent les gérer. On parle de l'Algérie aujourd'hui. Tout le monde tape sur Riyad Mahrez, je pense à juste titre. À juste titre, parce que c'est le leader technique, c'est le capitaine. Mais un Riyad Mahrez qui arrive dans un match à élimination directe, son pied gauche, son expérience, à un moment donné, la mentalité du champion, elle se réveille, elle revient toujours à un moment donné. Donc, ça serait bien que l'Algérie passe. Et après, je pense que là, les grands joueurs, ils feront la différence.
On a Jafar au 32-16 supporters algériens. Ils sont nombreux sur le 32-16 les supporters algériens. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se lâcher un peu, quoi, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Jafar, bonsoir.
Bonsoir à tous. Merci donc pour cet accueil. Donc effectivement, moi je voulais parler donc du match d'aujourd'hui de l'équipe nationale algérienne. Donc je suis un grand supporter, hein, depuis mon jeune âge. Et effectivement, donc moi je suis d'accord avec Sébastien concernant Riyad Mahrez. Je trouve qu'effectivement, concernant les critiques qui sont tout à fait légitimes, mais voilà, un Riyad Mahrez, c'est quand même un joueur qui peut débloquer une situation sur un match vraiment à élimination directe. Donc voilà, je pense que voilà.
Côté donc toi, troisième match, tu le mets quand même, même si on voit bien qu'il n'est pas à son niveau habituel.
Je le mets.
Faut pas le mettre sur le banc.
Oui, voilà, je le mets titulaire, tout en sachant qu'un Adam Ounas peut rentrer. Donc comme aujourd'hui, en étant effectivement en forme et pouvant délivrer l'équipe comme il a fait aujourd'hui, hein, sur une passe décisive. Mais voilà, en tout cas, par contre, contrairement au précédent match, Mahrez, je le ferai sortir, effectivement, autour de la 60-70e, si je le vois à court de forme.
Voilà, il est sorti ce soir, hein. Il est un peu plus, 64e, je crois, de mémoire.
Ouais, c'est ça. Et c'est à noter d'ailleurs, hein, le fait qu'on puisse sortir Riyad Mahrez du terrain, parce que d'habitude, enfin, le plus souvent, il joue quand même jusqu'à la fin.
Je pense que c'est beaucoup plus dans le scénario du match, en fait. C'est Riyad Mahrez qui a été déjà mis de côté, c'est déjà arrivé. Il y a des matchs où Jamel Belmadi a tenté de...
74e, pas 74e.
Voilà, là, ce qui est beaucoup plus marquant, c'est que l'Algérie est menée, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un problème sur l'aile droite où on n'arrive pas à créer de l'animation. Moi, il y a une scène, enfin, en seconde période, je me souviens que Riyad essaie de rentrer un peu plus dans le cœur du jeu. Il n'est même pas sollicité. Enfin, ses partenaires ne jouent même pas avec lui. Ça, c'est vraiment criant. On a bien vu que la sortie de Belaïli, l'entrée de... Ça n'a pas vraiment... on va dire encourager à plus jouer sur Riyad, on a encore continué à jouer sur le côté gauche, donc tous ces éléments sont à interpréter comme un véritable coup dur pour Riyad, mais je pense aussi un véritable tournant pour la sélection. Ça pose aussi la question sur la suite de sa carrière. Je sais que c'est un joueur qui est très ambitieux et qui va aller au-delà de la CAN 2023, qui aimerait bien pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2026, mais avec les récentes performances qu'il a eues avec l'équipe nationale, c'est peut-être son statut qui est remis en question, potentiellement le capitana, mais à voir sur la suite de la compétition.
Ah, je pense qu'on va loin. C'est pas qu'on va loin. Je comprends ce genre de discussion. Tout simplement, à un moment donné, Riyad Mahrez et tout Riyad Mahrez qu'il est, s'il n'est pas dans le match, et si le jeu nécessite un peu plus de jeu direct, parce que là, il faut revenir au score, il fallait mettre des ballons dans la boîte, il fallait avoir plus de présence dans la surface. Et c'est juste normal, vu qu'il ne fait pas la différence à ce moment-là, qu'il sorte. Après... les discussions, est-ce qu'il ça va, on va lui enlever le capitana, est-ce qu'il va être sur le banc, ça c'est sincèrement c'est le problème du coach et du staff, et c'est un problème normal. Il faut à un moment donné pouvoir sortir le joueur qui n'apporte pas ce dont l'équipe a besoin à ce moment-là. C'est pas la majeure partie des gens, ils se disent Riyad il va faire la différence, mais aujourd'hui faut lire le jeu, faut lire le besoin du moment. Tu perds, il percute. S'il était Riyad qui percute, qui continue à les provoquer, tu vas le laisser sur le terrain. Là c'est pas le cas. Et comme beaucoup d'équipes, c'est un peu comme quand l'Égypte, ils ont perdu Mo Salah, ça force les autres, même sur 15 minutes, à se sublimer. T'es obligé.
Salah, contre-exemple. Salah, tu remarques que l'Égypte a été meilleure sans lui en deuxième mi-temps.
Oui, c'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est la même chose sur les 15 minutes, Gilbert. Parce qu'il marque quand Riyad, il n'est pas là. Parce que quand Riyad est sur le terrain, inconsciemment, tu veux lui donner le ballon. Parce que tu as cette pensée inconsciente de dire, il va me faire la différence. Mais quand il n'est pas là... les autres joueurs, il n'est pas là. Donc, tu dois, toi, élever ton niveau, tu dois faire l'effort en plus, ce qui fait que ça t'apporte ce truc différent.
Mais si t'es sur le banc, t'es pas là, mais t'es là quand même. Parce que Salah, il est blessé, donc t'as peut-être envie de t'arracher pour qu'il continue la compétition. Mais Mahrez, sur le banc, tu sais qu'il te regarde, tu sais qu'il est là. C'est pas exactement la même chose.
Il te regarde, Mahrez, c'est un joueur comme un autre. Il te regarde, Mahrez, c'est pas non plus...
C'est pas vraiment un joueur comme un autre. Riyad, ça fait quand même quasiment 10 ans qu'il est en sélection. Il a pris des responsabilités au fur et à mesure. Il y a une nouvelle génération qui vient, qui compte beaucoup sur lui, sur le partage d'expérience. On voit bien que Jamel Belmadi compte énormément sur lui. La relation qu'il a avec Riyad, elle est pas la même qu'il a avec les autres joueurs. Donc on en va toujours en attendre plus. Puis ça fait partie des têtes d'affiche de cette CAN.
Bien sûr, je suis d'accord. Joueur, c'est un joueur comme un autre. En fait, je pars du principe. Quand tu dis, il te regarde. Le joueur qui joue sur le terrain, il n'a pas le temps de se dire que Riyad Mahrez sur le côté, même si c'est mon capitaine, il me regarde, j'ai la pression.
Mais le gars qui le remplace sur le terrain dans le 11, t'as la pression de prendre la place d'une légende du foot algérien.
Mais non.
Mais au-delà de ça, lui disait que.
C'est un joueur professionnel. Il sait qu'il est en sélection. Ce qui compte aujourd'hui, en fait, ça, c'est des pensées que je peux comprendre, mais de manière réaliste, quand t'es sur le terrain, t'as pas le temps de réfléchir à tout ça. T'es là pour une mission, t'es là pour performer. Et autant qui que tu... Moi, j'ai pris la place à un moment donné, Rigobert Song. Je me disais pas, attention, Rigo, il est sur le côté et il me regarde. Est-ce que je peux bien jouer? Est-ce que je vais mal jouer? Tu as une mission à accomplir. Tu vas, t'es un professionnel et tu joues pour la nation. C'est même pas un club.
Alors, tu te disais, le vieux, je vais le mettre à la retraite.
Non, vraiment pas. Franchement, ça, c'est encore différent chez nous, mais non, pas du tout.
Par contre, ce que disait Riyad en après-match, il disait que lui, il avait eu quelques difficultés parce que c'est un joueur qui est souvent sur des prises à deux. Donc, il a souvent plus de difficultés à devoir se libérer. Aurélien, comme tu le disais, je crois que c'est Sébastien qui parlait de percussion. On voit bien qu'il est beaucoup moins dans la percussion. Donc, ça pose la question sur son rôle tactique au sein de la sélection lors des matchs.
Il a l'argument des coups de pied arrêtés, à chaque fois il revient. Ouais, mais Mahrez sur un coup franc et tout.
Parce que statistiquement, c'est vrai. C'est statistiquement, Riyad peut te faire la différence. Et ça reste le joueur, pour moi, qui est un joueur à part. C'est-à-dire, on regarde la CAN pour cette
affiche. En fait, c'est surtout la gestion des stars. C'est-à-dire, quand tu as une grande star dans ton équipe, le rapport entre le sélectionneur et la star est sans doute un peu spécial, peut-être différent du joueur lambda. Donc tu traites pas la star comme tu traites le petit jeune qui vient d'arriver.
Même les supporters.
Tu traites pas Mahrez comme tu traites Aouar, quoi. Voilà,
non,
c'est
mais
normal.
Même au-delà de ça, les supporters comprendraient mal le fait que si tu mets Riyad de côté et que tu gagnes, bah peut-être, ou que tu gagnes pas, surtout, je dirais, mais oui, mais t'as mis de côté Riyad. Donc moi, je pense que le vrai problème, c'est que quand tu te retrouves confronté à ce genre de décision en plein milieu d'une compétition majeure, si tu avais traité la question avant, peut-être que le fait de l'aborder en pleine compétition avec un joueur moins en forme l'aurait peut-être aussi moins explosé.
Oui, tu veux dire, oui, vas-y, Jaffar.
Excusez-moi, mais voilà, sans lui trouver forcément de circonstances atténuantes, on sait qu'il joue aussi sur le côté droit, côté où joue actuellement Youssef Attal, et on sait que physiquement, les deux sont assez justes. Hein, on l'a vu avec Youssef Attal, donc qui n'a pas joué depuis un moment avec l'OGC Nice, et qui vraiment accourt physiquement. On le voit aussi pour Riyad Mahrez. Moi, j'espère juste qu'effectivement, la préparation intensive qu'ils ont effectuée au Togo sert pour qu'ils augmentent en termes d'intensité physique au fur et à mesure des matchs.
C'est possible, ça. C'est possible qu'il y ait un calcul qui a été fait en disant on sait qu'on va être un peu moins bien sur le premier tour, mais l'idée, c'est d'être à bloc à partir du huitième.
Voilà, c'est difficile d'avoir un joueur...
Excuse-moi, vas-y, Jaffar.
Voilà, c'est quand même risqué, mais voilà, j'attends quand même Riyad, si effectivement l'équipe nationale passe en huitième de finale, un autre niveau physique, parce qu'effectivement on sent et on a vraiment besoin d'un Riyad en forme physiquement, parce qu'on sait que la technique ne suffit pas malheureusement en Coupe d'Afrique où on est face à des adversaires qui sont aussi très physiques, très athlétiques. Donc voilà, j'espère effectivement que ça s'améliorera au fur et à mesure des matchs.
Et c'est juste pour aller dans le sens de Jaffar, ça dépasse Riyad Mahrez. On l'a vu face à l'Angola, l'équipe a flanchi au retour des vestiaires en seconde mi-temps. On a senti qu'ils étaient beaucoup moins précis dans le dernier geste, beaucoup moins dans l'intensité. On a eu l'occasion de discuter avec certains joueurs en zone mixte après le premier match. On nous a aussi posé la question, est-ce que la préparation au Togo a eu un impact sur votre rendement sur le terrain? Non. Lors de ce second match, les joueurs n'ont pas pointé ça. Je pense que ça reste quand même une clé à ne pas négliger, même si okay. Les joueurs se cachent.
Je vous pose une question. Est-ce que l'Algérie peut être championne sans Riyad Mahrez?
Oui.
Oui. Bah oui.
Oui. Surtout quand t'as Amoura sur le banc.
Bah non, elle peut être...
Si elle peut être championne d'Afrique sur cette compétition, on ne sait pas. Enfin, il faut voir ce que les équipes vont donner sur leur seconde journée. Mais l'équipe d'Algérie a existé sans Riyad Mahrez, elle existe avec, elle existera sans, comme elle existera sans Belaïli.
Tout le monde est tous d'accord. Jaffar, merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
À bientôt. À bientôt dans l'after. Voilà. C'était le retour de Jaffar ce soir. Bah quoi, c'était logique.
Ouais, c'est pas mal, ouais.
C'est,
pas,
c'est facile.
Un peu facile.
Dans un instant, Ahmed avec nous. On va vous raconter pourquoi la Fédé algérienne est en colère dans quelques instants. La Fédé algérienne, quand ça tourne pas pour elle, elle aime bien faire des petits appels, des dossiers, demander qu'on rejoue le match, des trucs comme ça. Bon, on vous raconte ça dans quelques instants, puis on fera l'évaluation ensemble avant de parler des autres rencontres du jour. À tout de suite dans l'After Cannes.
RMC, l'After Cannes.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 18 à Paris, il est 23h18 ici en Côte d'Ivoire, c'est l'After Cannes comme tous les soirs. Nous sommes en direct pour analyser les matchs du jour, débattre de l'actualité du foot africain. Ce sera comme ça aussi, même quand il n'y a pas de match, à la fin du premier tour. Là, on aura quelques jours sans match, on prendra le temps de faire des bilans, pas de parler formation, de parler de la présence des coachs locaux. Enfin, il y a mille débats à faire. Le niveau des gardiens, tiens, voilà un autre sujet intéressant qu'on pourra faire un autre jour. Mais là, ce soir, on parle des matchs. Et donc, prioritairement de l'Algérie, ce soir avec Sébastien Bassong, légende de Norwich aussi, ça je ne l'ai pas dit, avec Aurélien Tirsin, reporter RMC Sport, avec Mohamed Bradji, journaliste algérien. Beaucoup de journalistes qui suivent la sélection, là ?
Énormément.
À Boaké, il y a du monde ?
Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de journalistes, il y a aussi pas mal d'influenceurs qui ont été accrédités à CAF, ça c'est un peu une bizarrerie, mais l'Algérie demeure une sélection très très suivie lorsqu'il s'agit des Coupes d'Afrique des Nations.
C'est les influenceurs, c'est les mecs là qui ont des gros comptes Insta ou quoi et qui se pointent et qui suivent la sélection.
Oui, zone mixte, salle de conf de presse.
Ah ouais, ça c'est marrant, ça. La CAF, ils font pas la différence entre les journalistes, on va dire, professionnels et les autres.
Non.
Mais est-ce que c'est des toutous comme avec le PSG par exemple? Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs avec le PSG, mais on dit pas du mal du coup. pour avoir les accrèdes, faut dire du bien.
C'est le PSG qui te file l'invite.
Bah voilà, mais est-ce que c'est la même chose?
Tu peux avoir l'invite au match d'après.
Non, mais je pense que c'est plus là, ils sont dans la surprise et dans la contemplation, parce que je peux pas. Je pense que c'est. On en parlait tout à l'heure un peu en off, mais c'est toujours un peu bizarre quand tu fais tes premières fois et que tu te retrouves si proche des joueurs, du terrain. Donc il y a une forme de fascination. Je pense que c'est plus l'excitation de l'événement et le fait de vivre quelque chose en plein cœur du truc, quoi. Et c'est ce qu'ils veulent faire partager à leur communauté, grand bien leur face. Mais c'est vrai que c'est un gros point noir de la CAF qui aurait pu mieux faire le tri.
Bon voilà, c'est vrai qu'il faut savoir faire la différence entre une personne qu'on dit influenceur et puis un journaliste professionnel qui a une déontologie, une façon de travailler, une rédaction, etc. Bon, on va pas faire un cours des médias ce soir, mais enfin, c'est très différent. Ahmed est là. Salut Ahmed.
Au 32-16.
Ça va ?
Salut.
Ça va bien. Ouais, ça va.
Bon, l'Algérie est pas contente et a décidé de présenter un dossier devant la CAF parce que selon la fédé algérienne, il y a eu des gros soucis d'arbitrage dans ce match, notamment un penalty oublié. Alors, si je voulais faire le garrelou, je dirais que les Algériens, c'est un peu les spécialistes des réclamations,
oui,
quand même.
Oui,
on se souvient du fameux Algérie-Cameroun qualificatif.
Ouais, on s'en souvient tous, t'inquiète pas.
On s'en souvient bien,
oui, effectivement.
Non, mais Ahmed, faut savoir parfois, quand il y a des faits contre toi, les accepter. Enfin, je veux dire, une erreur. Éventuellement, si même il y a eu une erreur de l'arbitre, ça fait partie du jeu, non?
Oui, mais vous savez, moi, ce que j'aimerais que la Fédé fasse, c'est qu'elle prenne son téléphone. Elle appelle l'incompétent Ben Madi, elle lui dit est-ce que t'es aveugle? Est-ce que tu vois pas que Mahrez, il est KO, il est mort? Il est fini pour le football. Dès qu'il est sorti, on a
peut-être un peu exagéré quand même, mais bon.
Il est cramé, il joue plus haut niveau, il faisait du banc à City, il est en Arabie, il a pas la préparation d'un joueur professionnel de division 1. En division 1, il vous faut un mois et demi pour monter le cardio. Il a pas le cardio d'un professionnel. Il a jamais eu la vitesse, c'est un dribbleur, il a pas le dribble. Qu'est-ce qu'il fait à droite? On a pesé Belaïli. Et qui joue en Algérie, on sent qu'il est prêt, qu'il est affûté. Lui, il arrive en équipe nationale, il est pas prêt. Bah, c'est pas possible, mon gars, tu peux pas jouer. On joue à 10 avec lui, c'est une catastrophe. Et j'ai entendu l'entraîneur qui disait, oui, vous voulez parler de Mahrez, il est pas seul responsable. Bah non, il est pas seul responsable, mais on voit que lui. On voit ses faiblesses. Donc la fédération, elle ferait mieux d'appeler l'entraîneur et lui dirait, oh, tu nous mets les jeunes là, d'accord, qu'on joue un peu plus vite, qu'on pèse un peu plus fort, et on gagnera, et on n'aura pas besoin de pleurer sur un pénalty. Oui, il y a une main. Bon, il y a une main, elle peut être sifflée comme pas sifflée. Mais on ne doit pas...
Bah oui, c'est de l'interprétation.
On ne doit pas se réfugier derrière ça. T'as une équipe qui joue à 10, t'as un petit vieux à droite qui ne sert à rien. Il a disparu du match. Et c'est pas nouveau, hein. Ça fait un an qu'il est nul en équipe nationale. Et ce mec-là, on a l'impression que c'est CR7, c'est Messi.
Tu vois qu'il est intouchable, t'as l'impression qu'il est intouchable.
Après, oui, il est intouchable, et puis il y a aussi un entraîneur têtu. Il y a un entraîneur prétentieux qui ne veut pas regarder son erreur.
Puisque tu déportes le débat sur Belmadi, allons-y.
Juste sur Mahrez, faut quand même pas oublier qu'il a été ballon d'or africain. Je vais pas faire l'avocat de Mahrez, mais il a quand même des statistiques en sélection nationale qui sont impressionnantes. Ça reste pour moi dans le top 3, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire de l'Algérie. Alors je comprends la colère d'Ahmed, parce que avec Riyad, on a une exigence qui dépasse celle qu'on peut avoir avec les autres joueurs. Mais il reste un match.
Je ne vais pas sacrifier les équipes parce que je rêve qu'une starlette du passé va faire un exploit. C'est pas du football.
Non, c'est sur le point. Starlette du passé, tu vois, Ahmed, on va dire, moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. On est encore en lice, on a deux points, on a un destin entre nos mains. Et je vois beaucoup de réactions où les supporters on a l'impression qu'on est au pied du mur. Alors que pas du tout.
Non, mais
on a encore notre destin entre nos mains.
Parce que tu vois que cette équipe peut jouer mieux sans lui. Parce que tu vois qu'on pourrait être bien.
Allez,
mieux.
Pourquoi pas?
Mais comment tu vois qu'elle peut jouer mieux sans lui? Excuse-moi, Ahmed. Sincèrement, de manière factuelle, comment tu le vois?
Dis-moi ce qu'il a fait du match.
Non, c'est pas ça. Ça, c'est différent. Tu me dis ce qu'il a fait dans le match. Mais comment toi, tu vois qu'elle peut jouer mieux sans lui? Tu l'as pas vu.
Dès qu'il est sorti, regarde le match.
On parle de 15 minutes sur un match, Ahmed.
Attends, juste revenons quand même sur les choix de Belmadi, puisque tu pointes du doigt Belmadi. Bon, on a bien compris que Mahrez t'en voulait plus, mais tu pointes du doigt Belmadi. Belmadi, il est quand même une équipe offensive, là.
Moi, le problème, c'est que le 11 de départ.
11 de départ, Belaïli, Feghouli, Mahrez, Bounedja.
Bon. Alors, c'est pas offensif, parce que déjà, sur le 11 de départ, t'as 8 joueurs sur 11 qui ont joué la CAN 2019. Donc, la CAN 2019, on en parle souvent, c'est un succès pour Belmadi, mais ça fait 5 ans. C'est-à-dire qu'en 5 ans aussi, les joueurs, ils ont pris 5 ans entre temps. C'est-à-dire, par exemple, un Feghouli.
Ah, il est cramé aussi.
Si vous répondez à la question de Gilbert, il a dit des choix offensifs. Vous allez dans les Ça fait 5 ans. C'est des joueurs offensifs ou c'est pas des joueurs offensifs?
Le mec, il démarre avec 4 offensifs.
On parle de composition offensive. Les 3 offensifs, c'est Belaïli, Bounedjah, Mahrez. Feghouli est dans un travail beaucoup plus au milieu pour pouvoir accompagner Mahrez et surtout pour pouvoir.
Feghouli, c'est pas un milieu défensif. C'est pas un 6.
Mais il avait beaucoup plus un rôle pour courir pour Mahrez et pour assurer face au milieu Blaty Touré et Gustavo Sangaré, qui est un milieu très costaud à la CAN. On rappelle que le Burkina Faso était demi-finaliste de la dernière CAN, que ça reste quand même un poids lourd sur le continent africain, qu'on les a joués en qualification de Coupe du Monde, que ça a été très serré. On a fait 2-2 au Maroc avant de faire 1-1 chez nous. Donc Feghouli, il n'a pas un rôle offensif. C'est ça aussi, on a tendance à mal juger. Et par rapport à cet équilibre d'équipe, effectivement, le jeu pense plus à gauche, peut-être parce que Mahrez n'est pas mis dans les meilleures conditions, mais le problème c'est que sur la composition de départ, t'as pas tant de nouveautés, c'est-à-dire que les 3 joueurs que tu n'as pas, c'est parce que Mboulhi ne pouvait plus, enfin il est dans la liste, mais entre guillemets Mandrea a pris sa place, Ben Sebaïné a été replacé en centrale gauche, donc Aït Nouri qui a émergé est là, et le troisième c'est Ramiz Zerouki qui a été intégré entre
2019. T'es en train de nous dire que c'est France 2002 en fait, l'Algérie 2024?
Non, puisqu'on est encore en lice au bout du second match, donc non, le parallèle s'arrête là, mais je veux dire par là, quand tu as un profondeur de banc avec Amoura qui a fait une très bonne entrée, qui a vraiment.
Alors attends, puisqu'on continue sur Belmadi, le coaching, justement, il fait rentrer tout ce qu'il a comme attaquant, il a tout mis là.
Ça faisait très peur. Hein. Franchement, moi, j'ai eu des flashs.
Ça lui ressemblait pas à Belmadi.
Belmadi, quand il est
pas trop ce style-là,
quand il est pied au mur, généralement, il tente un all-in qui peut soit passer, soit casser. Ouais, dos au mur. Ouais. Mais là.
Quand t'es dos au mur, t'as aussi les pieds dos au mur.
Ouais, mais là, ça me rappelait le 4-2-4 face à la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, où tu avais encore ton destin entre les mains, tu joues en 4-2-4 et puis tu perds 3-0. Là, je pense qu'il avait vraiment senti le souffle de la désillusion passer devant lui. Là, ça paye. Et justement, on va dire que ça paye, c'est plutôt positif. Mais on a encore une fois, à partir de la 60e, quand les Burkinabés mènent 2-1, on sent très clairement que la catastrophe peut arriver. Et là, les changements ont payé. Mais attention, ça peut se reproduire s'il n'y a pas des
les changements, ils ont payé. Ouais. En fait, vous allez très loin dans votre réflexion parce que si on parle de. Je reviens sur la question de Gilbert. Les joueurs offensifs. Un joueur offensif, c'est un joueur offensif. Feghouli, peu importe comment il va être utilisé dans le système, ça, c'est entre eux. Mais si on parle de joueurs offensifs, Belmadi, il n'a pas l'habitude d'avoir une équipe sur le papier aussi offensive, que ce soit des anciens joueurs ou une nouvelle génération, ça c'est un autre débat.
L'Algérie, c'est une équipe de contre. Hein. C'est pas une même 2019, elle fait son succès sur ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à confondre l'Algérie comme une équipe de possession, comme une équipe ultra offensive. Alors que
ça va vite,
elle n'a pas joué sur ça. En fait,
l'Algérie,
c'est pas...
ça va vite.
En contre, ça peut aller très vite.
L'Algérie, ils ont des joueurs très physiques. Ça veut dire ça va vite vers l'avant, ça joue dans la verticalité. Mahrez, en temps normal, peu importe les joueurs qui sont là, ils provoquent. Mais aujourd'hui, vous aviez une équipe offensive. Si on parle de Belmadi, si on reste sur Belmadi, il a mis une équipe offensive. Maintenant, comment c'est animé, c'est un autre débat. Et après, la jeunesse, je pense que Belmadi, dans son approche, il voit la pression, il fait un mix de nouveaux, de jeunes, de vitesse et d'expérience dans ces matchs-là. Pourquoi Sofiane Feghouli aujourd'hui? Parce qu'il a une expérience qu'un jeune à ce moment-là ne peut peut-être pas lui apporter, peut-être sur 60 minutes, sur 50 minutes.
Sauf que je suis d'accord avec toi, mais le postulat, il n'est pas validé parce qu'au bout de 45 minutes, il le sort. Réajustement, il fait rentrer Amoura, première CAN, premier match. Et directement dans l'impact, il t'apporte autre chose. Il aimante les défenseurs burkinabés, il fait une super mi-temps. Donc là, je suis d'accord avec toi, hein, vraiment, tu as totalement raison. C'est-à-dire, ça dépend de comment tu animes, ça dépend de ce que tu peux aligner. Mais là, ça s'est pas validé. Et d'ailleurs, il s'est déjugé puisque Feghouli a été sorti à la mi-temps. Donc même là, en termes de joueur offensif, c'était
parce
pas
du tout. Parce que Feghouli, il a pas fait une bonne mi-temps, c'est tout.
Bah, lui, il a la chance que tous les regards sont sur Mahrez. Parce que Feghouli, effectivement, alors c'est pas une légende de l'Algérie à proprement parler, mais c'est quand même un joueur qui a compté. Il était transparent.
Légende quand même. On va dire qu'il est là.
Non, mais je fais quand même un distinguo entre Mahrez et lui. Mais voilà, il y a peut-être un tout petit cran en dessous, mais c'est un joueur qui a compté. Quant à Shaibi, alors bon, moi je suis pas d'accord, mais il a été élu homme du match lors de la première rencontre. Shaibi, Amoura, des mecs comme ça, quand tu les vois, alors lui à la Saint-Gilloise, Shaibi à Francfort, tu dis mais cette fameuse nouvelle génération, si tu veux marquer des buts, il faut mettre ces gars-là.
Bah oui,
Ahmed.
Bah oui.
On était sur Belmadi, Ahmed, quand il fait sur son coaching là, t'es en phase avec ce qu'il a fait, fallait mettre tous les attaquants là, fallait envoyer la sauce.
Bah, ils étaient éliminés à ce moment-là, 2-1, ils étaient éliminés. Hein. C'était au revoir tout le monde. Hein. Donc
non, t'étais pas éliminé parce que t'avais un point, tu pouvais avec 4 points te qualifier derrière.
Ouais, mais il a vu toutes ses erreurs à ce moment-là. Il a sorti Mahrez d'ailleurs, hein, mais à ce moment-là, c'était le naufrage parce qu'en fait les Burkinabés. Les Burkinabés ont mal joué le coup. Ils se sont dit, en deuxième mi-temps, ils sont cramés, on l'a vu. Donc, ils ont tenu. Ils ont joué à première mi-temps, ils ont laissé à Babal, ce qui a donné l'impression qu'on dominait. Mais en fait, ils ont pas voulu jouer. Et ils nous ont mis un but sur un centre, un bim but. Ils nous ont tué direct. Et après, ils se sont dit, bon, on a des billets en deuxième mi-temps.
Une grosse erreur aussi d'alignement de la défense algérienne. Ça, c'est récurrent et on le voit. De toute façon, tu prends tous les buts de l'Algérie. C'est-à-dire le premier but face à l'Angola, faute de Bentaleb qui était évitable. Là, l'alignement de la défense qui était vraiment... Voilà, quoi, je vais même pas finir ma phrase. Et le penalty, bon, manque d'expérience d'Aït Nouri, moi je tire même pas dessus parce que pour moi il a fait quand même un bon match, mais c'est toujours ces sauts de concentration, ce manque de certitude que tu te crées autour de toi, sur ton environnement, sur le terrain, qui t'amène, parce que s'il y a pas ces erreurs, l'Algérie elle a 6 points, t'es qualifié, tu es parti.
Moi je vais te dire quand même, Ahmed, avant qu'on se quitte, sois un petit peu, comment dirais-je, prends un peu du recul, parce que comme on l'a dit en début, il y a une autre compète qui va démarrer en 8e, et si l'Algérie va en finale, peut-être que tu te diras, ce que j'ai dit dans l'after, tu vois, le 20 janvier, j'aurais peut-être pas dû le dire.
Non, mais t'as peut-être raison. Mais physiquement, Marez, si t'es pas prêt, avec le temps qu'il fait, avec la chaleur et l'humidité, bonjour pour remonter la pente.
Merci Ahmed, bonne soirée.
Merci.
À très vite. On continue sur l'Algérie avec l'évaluation dans quelques instants. Ensuite, on parlera du match entre le Mali et la Tunisie ce soir. Et puis alors, le Angola-Mauritanie, celui-là, on l'a pas vu venir. Celui de c'est le match un peu moins intéressant et tout. La moralité, c'était le feu. Donc, on peut en dire un mot également dans quelques minutes dans l'AfterCan. À tout de suite.
RMC, l'AfterCan.
Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à 1h30 du matin, comme tous les soirs. Il est minuit 32 en France. Il est 23h32 ici à Abidjan. Sébastien Bassong avec nous, légende de Metz. Je l'ai pas dit. Aurélien Tiersin, reporter RMC Sport, légende de RMC Sport. Moustapha Bradji, Mohamed Bradji. Parce que j'ai confondu avec Moustapha Hadji sans doute.
Oui. Grande légende.
C'est vexant, non, pour un Algérien.
Non,
parce que pas vexant.
Non, grande légende de.
C'est bien. Tu es un garçon ouvert.
Non, il y a beaucoup de fraternité entre les Algériens et les Marocains.
Bah, c'est un plaisir à entendre parce que des fois, on a du mal à le toucher du doigt.
Mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas ce qui se passe sur la vraie vie. Moi, je me souviens en 2019, on a eu énormément de solidarité de la part des Marocains lorsqu'ils ont été éliminés et qu'ils sont venus nous soutenir dans notre second succès. Moi, dehors, il y a beaucoup de fraternité, que ce soit avec les Ivoiriens, les supporters des autres sélections. Donc, tu as dû prendre du recul.
Est-ce que le supporter algérien était derrière le Maroc à la Coupe du Monde?
Oui.
Majoritairement.
Ah oui, il y en a eu. Bah, bien sûr, ça reste quand même une sélection qui a été en demi-finale, première sélection africaine. Il y a eu beaucoup de joie, il y a eu des célébrations en Algérie. Moi, j'en ai vu. Il y a eu des célébrations aussi au Maroc pour l'Algérie lorsqu'elle a gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Sur Direct Studio, on me dit ce Mohamed est un mytho.
Est-ce que le supporter algérien était, comme tu as dit, il y a beaucoup de fraternité, supporter du Cameroun pendant la Coupe
du... Ah, ça, c'est autre chose.
Ouais, tu as dit, il y avait beaucoup de fraternité, non?
Mais au Cameroun, ça, c'est une autre histoire. Tu demanderas aux supporters algériens, hein, ils ont encore de bons souvenirs.
On a un auditeur fidèle de l'After qui nous rejoint, qui est déjà passé l'autre jour. Sébastien, il est plutôt pour le Sénégal.
Oui, complètement pour le Sénégal.
Voilà, Divi, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Et bienvenue de retour parmi nous.
Merci.
Tout à l'heure, on va débattre du Cameroun, tu pourras donner ton avis, ton œil extérieur, ton œil d'analyse du football.
Ah ouais, avec plaisir.
Voilà, ce sera tout à l'heure. J'aimerais d'abord qu'on conclue sur l'évaluation algérienne. Mehdi est là au 32-16. Salut Mehdi.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde.
Salut.
Mehdi, on va plus parler de Mahrez, on en a trop parlé déjà.
Ouais, franchement, je l'ai un petit peu à la gorge. Mais bon, on va pas aborder ce sujet pour le moment. On a trop parlé de lui.
Alors, attends, on va monter un peu ton volume sonore pour qu'on t'entende un petit peu mieux. Okay. Qui a été l'homme du match côté algérien pour toi?
Moi, je dirais, c'était beaucoup plus, Amoura. L'entrée dans Amoura, elle était...
Bah non, c'est Bounedjah, pardon. Non, allô, tu veux pas dire Bounedjah?
Non, Bounedjah, c'est vrai, il était bon, mais bon, après, il rate 10.
Pardon, Bounedjah, il marque au premier match. Là, il te met 2 buts, il te remet dans le match.
Non, le souci avec Bounedjah, c'est que je rate 10 pour en marquer un. Du coup, il faut être vraiment...
Non, mais les mecs, là, vous avez un niveau d'exigence sur la sélection, oui. Vous êtes...
On dit que le Camerounais est exigeant, mais l'Algérien l'est tout aussi. Hein. Donc,
non, mais Bounedjah, Mohamed, honnêtement, c'est pas un homme du match pour toi?
Si, homme du match, comme meilleur buteur de la CAN avec Nsue, qui rappellera de mauvais souvenirs aux Algériens sur la précédente CAN. Mais beaucoup d'efforts. Moi, j'ai vu le match au stade face à l'Angola. Il a cette capacité à vraiment perturber la défense. Un véritable poison.
Mais il court à Bounedjah.
Il se dépasse pour les autres.
Il met des buts magnifiques aussi. C'est pas que un mec qui se défonce. Il a mis des buts magnifiques.
Pour 3 cm, il serait à 4 buts. Et ce serait le but de la. début de la compétition.
Et aussi, il peut faire une passe décisive talonnade à l'entrée de la surface sur Belaïli.
La combinaison est magnifique.
Franchement, moi, il m'impressionne parce qu'on dit toujours les gars qui jouent dans le golf. Lui, joue au Qatar, c'est une légende absolue d'Al Sadd. Il a marqué 200 buts, je crois, avec Al Sadd. Enfin, c'est des totos impressionnants. Donc lui, il a jamais joué en Europe, si je dis pas de bêtises. Il est parti là-bas directement. Depuis, c'est quand même un attaquant sur lequel tu peux compter largement, quoi.
Surtout qu'il mérite, parce que lors de la CAN 2019, il avait été un peu en difficulté lorsqu'il avait raté le pénalty en quart de finale face à Agbo, la Côte d'Ivoire. Donc depuis, il y avait un petit passage à vide. On rigolait tout à l'heure un peu sur le match du Cameroun. Il a manqué lors de cette double confrontation. Il n'avait pas été pris. Et pour moi, son absence, elle a quand même eu un impact, même si Slimani s'était démené et reste le meilleur buteur de l'histoire de la sélection et le plus grand, le recordman de sélection avec l'équipe d'Algérie. Mais Bardad, il mérite. Il mérite vraiment parce que sur cette CAN, il est venu avec un tout autre état d'esprit. Il se dépasse pour son équipe, il marque des buts et je veux que ça continue sur cette lancée parce que vraiment, c'est un joueur qui mérite beaucoup plus de reconnaissance que le passage à vide qu'il a connu ces dernières années en sélection.
Vous n'êtes déjà homme du match, Sébastien, pour toi ?
Homme du match, quand tu marques deux buts et au final, tu ramènes ton équipe à la vie, c'est toi qui marques les buts. Ben, je vois pas pourquoi on va donner l'homme du match à quelqu'un d'autre. Sans toi, si t'es pas là, on gagne pas. Enfin, exactement. En tout cas, on marque pas.
Bon, malheureusement, la liaison avec Mehdi est pas très bonne. Comment vous jugez-vous le match de Belaïli, les gars ?
Bah, t'as envie de le secouer parfois parce que, comme dans la vie, visiblement, il est instable, il peut faire tout et n'importe quoi et il a pas la finition, malheureusement, il a la classe au début de ses actions. Et malheureusement, ça n'aboutit pas à la hauteur des espérances du début des actions. Il te fait de lever de ton siège en permanence et tu te rassois parce que y a pas ce petit truc-là. T'as l'impression qu'il pourrait être au-dessus de tout le monde. Et t'as l'impression que dans la tête, il faut débloquer un petit truc. Est-ce qu'il y a un QI football, le fameux QI football, Sébastien, je te laisse développer là-dessus. Mais
le QI football, c'est notre credo dans notre podcast à nous, mais pas loin encore. Mais non, Belaïli, au final, c'est la différence entre les joueurs. Les gens, ils pensent souvent. Ouais, il fait des bons débuts d'action, c'est vrai. Mais s'il faisait tout parfaitement, il serait pas là où il est. Donc à un moment donné, faut accepter les joueurs pour au niveau où ils sont. C'est sûr que c'est un joueur qui dans les débuts d'action qui est bon. Bah dans la fin, en end product à la fin, c'est moins facile. Après, pourquoi dire s'il faisait plus, c'est ce qu'il est. Aujourd'hui, il faut le prendre comme il est. Et je pense que les entraîneurs et Belmadi, il l'a bien compris. Aujourd'hui, il sait comment utiliser Belaïli. Il a pas d'attente extraordinaire. Si demain tu le fais, il fait plus. C'est un bonus, parce que tu dis waouh, il a fait un truc auquel on ne s'attend pas. Mais au final, il est fidèle à lui-même. On l'a connu comme ça, il continue comme ça. Il est authentique. Il est authentique, c'est son jeu. Et peut-être qu'il a atteint son plafond de verre. Il ne pourra pas aller plus haut parce qu'il n'est pas censé aller plus haut, tout simplement.
Je dirais authentique, mais c'est aussi surtout un joueur qui s'est vraiment dépassé. Il a eu une fin de saison tronquée à Ajaccio avec les péripéties qu'on a pu suivre la saison dernière et que vous avez pu relater sur l'after. Il revient en Algérie au Mouloudia d'Alger où c'est le transfert de
l'été. Le meilleur buteur du championnat.
Exactement. Il commence la saison avec, il cartonne avec 10 buts, Patrice Brumel et Dithyrambic sur Youssef. Lui-même est revenu pour pouvoir être fit pour la sélection. Il y a la blessure d'Amin Gouiri qui le remet un peu en selle et qui lui donne beaucoup plus d'importance dans le jeu de Belmadi et le lui rend bien. Après, on sait qu'effectivement, par rapport à la préparation physique, par rapport aussi à sa fin de saison tronquée, il n'a peut-être pas les jambes pour pouvoir aller au bout de ses actions ou pour pouvoir faire. Mais la volonté qu'il a, Hubert Velud le disait en conférence de presse d'avant-match, il a mis deux joueurs sur Belaïli, il a mis une attention particulière sur lui parce qu'il savait que le danger allait venir de lui. C'est très significatif. C'est un joueur qu'il a déjà entraîné à l'USM Alger et Youssef il peut vraiment apporter. Et là, même l'entrée d'Amoura, quand Amoura est rentré, on peut sentir qu'il y a une complémentarité. Une évolution tactique de Belmadi à deux attaquants peut lui laisser encore sa place sur ce troisième match. Donc, effectivement, peut-être que la lucidité sur le dernier geste, je suis d'accord, mais il faut aussi relativiser par rapport au joueur qu'il est. Sébastien disait qu'il est authentique. Moi, je dirais qu'il est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est.
Ah, carrément.
Oui. Mais c'est quelque chose qu'en France, on a du mal à comprendre.
Non, mais parce que les Algériens, vous êtes amoureux de Belaïli à un point.
Oui,
des fois, ça me bluffe.
Mais parce qu'on l'a subi.
Tu te dis, mais les gars.
Mais parce qu'on l'a
subi. Nous, on l'a vu à Brest, nous.
Voilà. Mais nous, on l'a vu depuis ses 18 ans au Mouloudia Club d'Oran. Puis on l'a vu évoluer à l'USM Alger. Enfin, Hubert Velud avait cette anecdote très, 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 très sympa qui disait que Belaïli, en fait, la semaine d'entraînement, il n'est que le jeudi. Alors que tu avais match le vendredi ou le samedi. Mais c'était toujours le joueur qui te faisait la décision, qui marquait. Et même quand il part à l'Espérance de Tunis. sur cette perception pour la France.
Fou, ça, ça te rend pas fou justement de savoir qui peut faire ça, mais.
Mais Laylon, on le connaît depuis l'âge de 18 ans. À 18 ans, il devait signer à Caen et finalement, il part à l'USMA pour aller à l'Espérance Sportive de Tunis. Sébastien l'a dit, on le prend comme il est. On doit le prendre comme il est. On doit faire avec ce qu'il est.
T'aimes pas.
Voilà, c'est ça.
T'aimes pas. Il y a des entraîneurs pour qui, franchement, ça peut pas passer en fonction de ta culture footballistique.
Mais c'est
en
moi, Vaïd Ali l'a dit qu'avec Belali, ça dure 3 minutes.
Ça dure 3 minutes parce qu'au final, c'est pas son football, c'est pas son type de personnalité. Ça matche pas, tout simplement. Il y a des entraîneurs qui, eux, dans leur façon de voir le football, sont un peu plus ouverts et qui voient le talent pur. Un entraîneur qui prend Belaïli, je pense qu'il a besoin d'un certain type de joueur qui est un peu fou, qui amène une certaine part de mystère, parce que tu sais pas ce qu'il va donner. De la même, il y a beaucoup de joueurs comme ça, mais après, ça a ses limites, tout simplement. Et tu dois savoir que tu peux pas en faire ton joueur majeur, tout simplement parce qu'un jour il sera là, un jour il sera pas là.
Voilà. Bon, et quand il fait les barbecues dans la cuisine, c'est quand même un problème. Ça ouvrir la fenêtre, quoi.
Bon, après, ça, on a retenu ça de lui, mais moi, je peux dire qu'il a cassé pas mal de reins en Ligue 1. Je me souviens, tu peux demander à Dizazi, qui aujourd'hui à Chelsea, il avait pris un beau dribble de la part de Bellaini avec Brest lorsqu'il jouait encore à Monaco.
Ouais, mais ça, c'est si on s'arrêtait aux joueurs qui mettent
des dribbles. C'est le chauvinisme algérien,
les joueurs qui mettent des dribbles aux autres, franchement, laisse tomber, il n'y a personne qui fait des carrières. Alors.
On va pas faire deux heures sur Bellaini, mais moi, c'est un truc, ça m'a toujours fasciné. Parce que quand il joue en France, moi je disais souvent, quand il fait un mauvais match, Belaïli a fait un mauvais match. Je me faisais mais insulter, j'ai l'impression par la moitié de l'Algérie. Ouais, faut pas toucher Belaïli, ouais, pourquoi tu dis ça? Calmez-vous les gars, il peut aussi faire des mauvais matchs, le gars. Il peut faire n'importe quoi.
Il a cette cote d'amour chez les Algériens parce que c'est un joueur qui est vraiment techniquement très fin. Quand il est en forme, hein, qui est décisif et qui surtout est très attachant. C'est-à-dire que quand tu suis le parcours du joueur, malgré ses à côté, malgré peut-être, comme le dirait Aurélien, la déception qu'on a eue de ne pas l'avoir vu plus haut parce que le potentiel était là très jeune, il y a une forme de sincérité chez lui qui est très attachante et qui fait qu'il a une super cote de popularité auprès des supporters.
Bon, on a fait le tour sur l'Algérie. On estime donc que contre la Mauritanie, ils vont être méga favoris. Hein. Ce serait la cata absolue, évidemment.
Il faut regarder le match d'aujourd'hui, la Mauritanie qui a été très surprenante. Donc non, il faut garder cette modestie en tête.
Enfin là, c'était porte ouverte, Angola.
C'est quelle modestie? Si demain tu dis pas que l'Algérie elle est favorite contre la Mauritanie, c'est que t'assumes même pas le statut que tu dois avoir. Et moi, j'arrive pas à comprendre. C'est une différence entre être modeste, dire que non, on va les prendre comme ça. Moi, j'aime les gens qui sont conscients de leurs forces. Ça veut dire que on est l'équipe d'Algérie. Certes, on passe un mauvais moment, mais on reste l'équipe d'Algérie. On reste les joueurs qui savent faire la différence. Le talent, il s'en va pas. Ça veut dire ce qu'ils ont construit ensemble, ça s'en va pas. C'est pas de l'arrogance de dire que oui, on se doit de gagner le match. Maintenant, ce que ça va se faire, ça va pas se faire, c'est la vérité du jour qui va le dire. Mais se cacher derrière, non, il faut être modeste. Enfin, c'est pas de l'arrogance. C'est pas être modeste de dire que tu sais quoi, je sais pas trop si je vais gagner, si je veux pas gagner. Je veux gagner, je suis censé être le meilleur. L'équipe d'Algérie, elle est meilleure que l'équipe de la Mauritanie. Est-ce qu'ils vont gagner le match? Ça, c'est autre chose. Parce que la vérité du football, c'est sur le moment. Mais arrêtez de vouloir dire non.
Quand on parle d'archi-favori, quand tu restes sur une désillusion lors de la précédente CAN, quand tu n'étais pas aux attentes de ce que tu devais être à l'issue de ces deux matchs, dire qu'on est modeste, je pense que c'est plutôt un discours raisonnable. Après, je te comprends. Effectivement, l'Algérie, ça reste quand même un des favoris ou un outsider. Ça dépend où tu veux la placer. Mais lorsque tu as ces résultats-là, t'es pas forcément en position de dire qu'on est archi favori. Après, bien sûr que l'objectif de l'Algérie, c'est de gagner chacun de ses matchs. Les joueurs l'ont rappelé après ce nul face au Burkina Faso, et ce sera l'objectif lundi prochain.
Et puis il y a un truc aussi, Gilbert, on dit la deuxième partie de la compétition, élimination d'Irak, etc., ça va peut-être progresser. Moi, contre la Mauritanie, déjà, j'aimerais bien que il y ait pas un défenseur et un milieu qui fasse une faute idiote, débile dans la surface et que tu te prennes un penalty, parce que la Mauritanie, tu peux les dominer, mais tu peux taper les poteaux, avoir des attaquants qui sont pas en confiance. Et puis, pas en réussite plutôt, et puis de prendre un vieux but, comme c'est le cas quand même sur ces deux premiers matchs. Parce que ça, c'est un vrai problème aussi.
C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais, sans ces erreurs-là qu'on a pu voir lors des deux premiers matchs, l'Algérie a 6 points. Donc, c'est ces choses-là qu'il faudra corriger. Je pense que Djamel Belmadi en est conscient. Il va falloir aussi que dans l'état d'esprit, les joueurs ne réfugient pas dans une forme de catastrophisme que j'ai pu voir après ce match, notamment les déclarations de Mahrez, que moi j'ai du mal à comprendre parce que t'es encore en position.
Oui, alors il a dit, on n'écoute pas les gens derrière leur ordi et leur micro. Non, et leur portable. Puis il a fait un tweet, genre un peu énervé par les commentaires, sans doute, à droite à gauche.
Je pense que c'est après c'est l'époque qui veut ça, où tu es beaucoup focus. Après Sébastien peut nous en parler, mais les réseaux sociaux, les réactions, l'entourage aussi qui peut te rapporter ce qu'il se dit ici et là, ça peut avoir un impact sur les joueurs lorsqu'ils sont dans une période de doute. Après, la force des grands joueurs, et Riyad en est un, c'est de se ressaisir. Moi, quand je vois le Sénégal, quand je vois ce que fait Sadio Mané, qui n'est pas aussi étincelant qu'il a pu être dans le passé, parce que lui aussi joue en Arabie Saoudite, parce que lui aussi a pris de l'âge, parce que lui aussi se retrouve dans un groupe où il y a une concurrence qui monte et une nouvelle génération qui monte, et ben pourtant c'est un leader, il arrive à pousser face au Cameroun, il marque ce but lorsque l'équipe peut se faire revenir et il arrive à les porter à la qualification.
Bon, on peut parler du Burkina Faso,
on va en parler, mais juste pour dire par rapport à Riyad, ben j'espère qu'il va être de la trempe de ses joueurs parce qu'il en est.
Le Burkina, ben franchement, moi il me bluffe. C'est vrai qu'ils ont fait un beau parcours à la dernière CAN déjà, et c'est pas le premier de leur beau parcours récent. Ils sont régulièrement bien placés, les Burkinabés. Ils ont fait une finale d'ailleurs.
Finale 2013.
2013, voilà.
Finale 2013, demi-finale 2021 et une autre demi-finale.
Le Burkina Faso, aujourd'hui, si tu regardes le football, tu ne peux pas être surpris. Moi, ce qui me fait.
Non, mais quand tu prends les mecs un par un. Je veux dire, voilà, à part un ou deux, ils jouent pas dans les grands clubs.
Mais ça, cette narrative de jouer dans les grands clubs, etc. Je comprends. J'ai jamais compris. Quand on arrive à la CAN, surtout la CAN, c'est une compétition internationale qui est différente de l'Euro. C'est pas la même conjoncture. C'est pas la même chose. La CAN, c'est pas les grands joueurs qui gagnent la CAN. C'est pas les meilleurs joueurs, une addition de meilleurs joueurs qui gagnent la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Burkina Faso, ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils sont en constante progression. Comme le Cap-Vert, comme aujourd'hui, ils sont au niveau du groupe, ils ont ce qu'il faut pour aller loin dans les compétitions du continent de la CAN, de l'Afrique. Ils ont ce qu'il faut parce que c'est des gens qui se connaissent très bien, leur groupe il change pas énormément, ils s'appuient sur des individualités, mais dans un collectif qui est super costaud. Je suis en Angleterre, je connais très bien certains joueurs, même que ce soit Issa Kabore ou que ce soit même Edmond Tapsoba. Les personnalités déjà, les personnalités en tant qu'être humain, c'est des gens qui, eux, sont des travailleurs, ils sont très simples et ils sont conscients de qui ils sont et de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça fait que quand ils arrivent dans une compétition, la cohésion qu'ils ont, les Burkinabés, et avec le talent, parce qu'au final, ils ont des joueurs importants. Bertrand Traoré, on ne va pas dire que c'est un joueur extraordinaire, mais dans la sélection.
Bah, il sera peut-être titulaire à un moment quand même, ça leur fera du bien.
Surtout, ce pénalty va te le chercher à l'expérience. Je pense que aussi, la faute d'Aït Nouri, c'est sa naïveté face à un joueur qui est expérimenté.
C'est Issa Kabore qui est parti chercher le pénalty.
Ah, pardon, ouais, c'est Issa Kabore. Pour moi, c'était Traoré.
C'est Traoré qui le marque.
C'est ouais, Traoré qui le marque, voilà.
Il est sur le banc.
C'est Issa Kabore, excuse-moi.
C'est le capitaine.
Mais qui te le met, voilà ça.
Quand tu regardes comment ça s'est passé, Bertrand Traoré, qui est la star de l'équipe, on va dire. Il est sur le banc les deux premiers matchs. Il rentre avec une mentalité qui est tout autre. Quand il prend là le pénalty aujourd'hui, regarde ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que Bertrand Traoré, il reste derrière. Les Algériens, vous êtes passés vous exciter en train de vouloir faire de l'intimidation aux joueurs qui avaient le ballon. Les Burkinabés, dans leur mentalité, ils ont gardé leur tireur tranquillement derrière. Au moment où ça a été confirmé, prend le ballon, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de se concentrer.
C'est un truc que tu penses qu'ils avaient. Effectivement, quand
ils l'ont déjà fait au premier match, hein, face à la Mauritanie.
Le latéral, là, il prend le ballon, on se dit qu'il va tirer celui-là, et en fait, c'est juste. Ouais,
c'est déjà survenu face à la Mauritanie, un même scénario.
Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, donc il y a un doute sur le penalty. Donc il y a un Burkinabé qui prend le ballon, qui en l'occurrence le latéral. Je crois que c'est le numéro 4, là, c'est Nagalo.
Nagalo. Exactement. Ouais.
Et donc, effectivement, il se fait un peu bouger par des joueurs algériens et tout. Et donc, on attend confirmation pour que là, Traoré se pointe, prenne le ballon.
Et c'est là où tu vois la force d'une équipe. Ça veut dire que tu sais que ton leader technique, il va aller tirer. Moi, je prends le ballon, je vais aller au charbon, je vais prendre ce qu'il va prendre, ce que je dois prendre par l'adversaire, parce que voilà, ça fait partie du jeu, l'intimidation, pour laisser ton joueur se préparer tranquillement et pas être dérangé. Au moment où c'est confirmé, l'arbitre, il écarte tout le monde. Tiens, prends le ballon, il s'est préparé et il est bien, son pied gauche, il met dedans. Ça, c'est la force d'une équipe et les gens ne regardent pas les trucs comme ça, mais c'est là où tu vois que le Burkina Faso et les Burkinabés, c'est la force d'un groupe. Il sort du banc, il peut être la star, il peut gonfler, il ne gonfle pas. Il reste là et il joue le temps qu'il doit jouer. Et comme ça, ils l'ont fait depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui, ils se retrouvent sur le devant de la scène, mais pour l'opinion publique, ça sonne pas bien, de la même manière que le Cap-Vert. Ça, on n'est pas habitué, mais il faut changer l'inconscient en général.
Non, mais ça reste une valeur sûre.
Il y a un truc intéressant aussi, c'est que j'ai vu ça sur Canal ce matin, ou je ne sais plus, sur Canal Plus Afrique, qui fait de nombreuses émissions très intéressantes. Hubert Velu, dans sa causerie, il a dit, écoutez les gars, pour la première fois depuis 4 ans, vous allez jouer à domicile. Parce que le Burkina ne joue plus chez lui, parce que maintenant, avec les exigences de stade et tout, bah, ils vont jouer leur match au Maroc, donc malheureusement, ils ne jouent plus à Ouagadougou. Et vu la communauté très forte burkinabé en Côte d'Ivoire, il y a, bon, et inversement, enfin bon, et qui joue donc
Bouaké,
au nord.
Pour expliquer, Bouaké, c'est la seconde ville de Côte d'Ivoire, c'est très proche de la frontière du Burkina Faso, du Burkinabé. Donc, on a vu beaucoup de déplacements massifs de supporters en provenance du Burkina. Il y a aussi une forte communauté burkinabé qui vit à Bouaké, par exemple, Blati Touré, qui est. Comme le disait Sébastien, c'est-à-dire la CAN, c'est pas une compétition où c'est les grands joueurs qui font l'équipe. On parle du milieu burkinabé, Blati Touré et Gustavo Sangaré ne jouent pas dans des grands clubs, mais une fois en CAN, il y a une cohésion d'ensemble qui font que bah, tu as l'impression d'affronter des joueurs qui sont infranchissables.
Ça pourrait être une équipe sur. Ils peuvent gagner ?
Ouais. Équipe surprise, ça c'est
comment ils peuvent, moi, ils peuvent gagner.
Ouais. Ils peuvent faire dernière carrière parce qu'ils font.
Ils ont fait. T'appelles Sébastien, toi.
Ouais, je sais pas. C'est Sébastien. C'est mais ils peuvent la gagner dans le sens où
Monsieur Basson.
Ils ont les ingrédients pour moi pour aller loin. Un tournoi, c'est pas sur des individualités. À un moment donné, c'est un tournoi. On parle d'un tournoi. Ça veut dire que eux, ils ont l'habitude maintenant. Ils sont rodés à ce niveau-là. Les autres, ils se cherchent encore quand tu les vois jouer. Ils sont sereins quand ils jouent. Certes, ils ont des moments de moins bien, mais ils paniquent pas. Ils se regardent. Tu sens une certaine cohésion, une force entre eux qui dit attention, on est prêt parce qu'on l'a fait depuis. Et à un moment donné, ça va passer.
Alors moi, tu as parlé d'un poste qui est un peu plus faible dans cette CAN. Là, c'est le cas pour moi. Le Burkina, c'est Hervé Kofi dans les buts, qui est peut-être pas l'assurance tout risque. Tu le vois sur le premier but, l'égalisation de l'Algérie, où bon, la sortie est pas magique. Sur 2-3 dégagements au point aussi, même une relance au pied qui fait dans l'axe. C'est probablement un gardien correct, mais pour gagner la CAN, va peut-être falloir élever le curseur à ce niveau-là.
Moi, je suis d'accord aussi avec toi. Je trouve que pour gagner, c'est quand même très léger. On a vu la fin face à l'Algérie où ils ont arrêté de jouer, en fait. Ils ont fait un peu de l'anti-jeu, ils jetaient au sol, ils restaient par terre pendant beaucoup de temps. Et justement, je pense qu'ils sont sortis du match et c'est ce qui a donné l'égalisation à l'Algérie. C'est qu'à un moment, ils ont arrêté de jouer au foot pendant 10 minutes à la fin du match.
Attention, parce que les Burkinabés, ils avaient gagné le premier. Bah, eux, match nul, ça leur va bien. Hein.
Ça leur va bien. Et après, se dire qu'ils ont arrêté de jouer, vous savez, quand c'est une équipe qui va beaucoup vers l'avant. C'est-à-dire qu'ils sont, leur jeu, il est énergivore, il est drainant. Mmh. Parce qu'ils s'accaborent, ils bombardent, ils font beaucoup d'efforts. Le but qu'ils ont pris à la fin, c'est, je pense, un manque de lucidité. Ils sont fatigués. C'est sur un corner. T'as une chose à faire à ce moment-là. C'est là où on parle d'expérience, mais vraiment où il y a un taulier qui vient, qui parle. C'est que même s'il faille que je secoue mon partenaire pour leur dire, écoute, on a une action à défendre. C'est juste ça. C'est ce manque de lucidité.
Tu as des joueurs d'expérience comme Steve Yago, comme Issoufou Dayo, qui auraient peut-être effectivement.
À ce moment-là, que ce soit le gardien, que ce soit qui que ce soit, on doit se secouer. Et ça, c'est pas qu'ils ont arrêté de jouer, c'est que sous la chaleur là, et la compétition, et dans un match, tu domines pas de la tête et des épaules pendant 90 minutes, tu dois savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Là, on dit souvent, au début de match, combien de buts ont été marqués dans la CAN dans les 5 premières minutes ? Pourquoi ? Parce que les gens, ils sont pas prêts. Avant la mi-temps, à la fin du match, c'est des moments clés. Si tu arrives à gérer ces moments-là, c'est là où tu gagnes en équipe, en expérience, et tu deviens vraiment très, très, très solide.
Dans un instant, tout sur l'analyse de l'after sur Tunisie, Mali, plus le match également de la fin d'après-midi entre l'Angola et la Mauritanie, et puis les matchs de demain, et puis 24 heures plus tard, le Sénégal-Cameroun, parce qu'il y a eu de nombreuses réactions dans tous les sens après cette rencontre. L'after CAN revient tout de suite en élève jusqu'à 1h30 du matin. Le premier podcast de France est en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de la CAN, messieurs, dames. Profitez-en, podcastez-nous.
RMC, l'after CAN.
Gilbert Bribois.
Minute 54 à Paris, 23h54 à Abidjan. L'After CAN ce soir avec Sébastien Basson, Gorélien Tirsin, Mohamed Bradji et Divi, qui est auditeur de l'After, supporter sénégalais. La Tunisie face au Mali. Les Tunisiens sont pas bien là. Je parle de classement, hein, je parle de situation dans le groupe, parce que il va falloir qu'ils gagnent absolument leur dernier match. Et bon, moi, je sais pas comment. Alors, on va parler du Mali dans quelques instants, mais démarrons rapidos sur la Tunisie, les gars. Le premier match, c'était quand même bon, très, très moyen et ennuyeux. Le jeu tunisien, c'est toujours, je sais pas. J'ai l'impression que c'était remake de la Coupe du Monde, ce qu'on avait vu. Là, les Tunisiens ont un petit point. Donc ils ont perdu contre la Namibie au premier match, je le rappelle. Ils vont jouer l'Afrique du Sud le dernier match, qui aura aussi sans doute obligation de résultat. Est-ce que vous estimez que la Tunisie est mal barrée pour la qualif, ou est-ce que vous vous dites bon, méfiance avec cette équipe-là qui
Non, moi je pense qu'ils sont pas, ils sont pas dans les meilleures dispositions.
Ouais, on est d'accord.
Ils sont pas dans les meilleures dispositions au niveau du jeu qu'ils produisent. Après, il faut voir, il faut avoir regardé un peu les derniers matchs de la Tunisie. Ils n'ont jamais vraiment produit un jeu super flamboyant.
Ils ne produisent pas grand-chose, les voilà. Tunisiens, mais ils arrivent souvent à avoir un résultat quand même.
Ouais. Mais là, il faut savoir qu'ils ont des problèmes en interne qui sont pas mal.
Ah, ils ont quand même le président de la Fédé en prison.
Donc,
celui du Mali aussi, cela dit. Donc là, c'était les deux.
C'était le Hebs contre le Hebs. C'est un peu compliqué, je pense. Et cette équipe-là, moi, je la vois difficilement passer. Et si elle passe,
La Tunisie, c'est quand tu les attends le moins qu'ils te surprennent le plus. Déjà, lors de la CAN 2021, c'était compliqué. Ils arrivent à passer en meilleur troisième. Et derrière, ils éliminent le Nigeria en huitième avant de tomber face au Burkina Faso. Donc, c'est toujours difficile de prévoir les performances tunisiennes. Après, le visage qui a été montré aujourd'hui, on a vu, ils ont été très rapidement menés au score avant de revenir grâce à Hamza Rafia, qui était connu pour avoir été à Lyon avant de partir à la Juventus. Moi, je pense qu'ils ont encore une possibilité, c'est-à-dire que ça pourrait passer difficilement à 1-0 pénible face à l'Afrique du Sud, tu pourrais les retrouver. Donc, faut jamais enterrer la Tunisie, c'est toujours une équipe qui peut te surprendre, qui peut passer dans un trou de souris et continuer la compétition. Donc, il va falloir voir. C'est plus du côté du Mali qu'aurait vraiment pu être l'une des confirmations de cette seconde journée.
J'ai une question, Gilbert. Quand on dit à chaque fois ces phrases, il ne faut pas enterrer la Tunisie, on ne va pas enterrer l'Algérie, en fait, on ne peut enterrer personne. Dans le football, non, mais
c'est une compétition à 24.
Je pense que
la Guinée-Bissau, tu peux les enterrer.
La Guinée-Bissau.
En plus, ils sont le même hôtel que nous, les pauvres, on les voit, ils sont dégoûtés.
Mais au final, quand on parle, on peut enterrer personne et tu ne dois pas enterrer les gens. Mais quand on réfléchit, on peut enterrer personne parce que tout peut se passer dans le football.
C'est le problème des trois meilleurs quatrièmes. Oui, parce que tu peux passer avec trois points.
Voilà, tu peux passer avec trois points. Donc au final, s'ils gagnent ou si t'as une équipe qui passe à trois points,
c'est plutôt les quatre meilleurs troisièmes.
C'est les quatre meilleurs quatrièmes.
Ah oui, non, là, ça sera encore pire. On n'y est pas encore. Ouais. Mais moi, le seul espoir pour les Tunisiens, c'est que l'Afrique du Sud, je crois que toi, t'aimes bien plutôt cette équipe-là, mais moi, je suis pas encore convaincu.
Il y a un derby demain.
Afrique du Sud, Namibie. Le match de rugby sur le papier, mais on verra bien ce que ça donne parce que la Namibie, battu la Tunisie, ils peuvent embêter les Sud-Africains.
Namibie, il est deux tiers joué en Afrique du Sud.
Oui, exactement. Mais moi, je ne suis pas encore totalement convaincu par cette équipe. Et la Tunisie peut les battre. Et effectivement, avec 4 points, tu passes.
Vous savez que Tunisie-Mali, il n'y a eu que deux tirs cadrés. On aurait dit un mauvais Clermont-Dijon.
C'était aussi le match de qualification à la Coupe du Monde 2018 où la Tunisie gagnait à l'aller suite à un but contre son camp des Maliens. Et au retour, pareil, match très pénible, 0-0 et la Tunisie qui passe. Donc c'est pour ça je comprends.
C'est une boutade, mais je veux dire, ils vont passer, ils peuvent passer. Mais après, si tu parles de la durée dans la compétition... Ah, je les vois, ça va être difficile. Ils peuvent passer.
C'est une équipe en temps de scie. Ils passent très difficilement la CAN 2021. Et ils arrivent à battre le Nigeria, qui était l'un des favoris de la CAN 2021.
Le Nigeria, je sais pas si c'est un bon baromètre. Le Nigeria, ils sont capables de n'importe quoi, du meilleur, du pire. Par exemple, on discutait avec nos amis de Guinée-Bissau tout à l'heure. Ils disaient, nous, on comprend pas pourquoi là, ça marche pas. On est quand même allé gagner au Nigeria en qualif.
Ouais, dans ce cas-là, c'est la même chose. Il y a des clubs qui ont battu le PSG, il y a des clubs qui ont battu le Real, etc. Bon, c'est pas une
Après, le visage qu'a montré le Nigeria face à la Côte d'Ivoire te montre quand même que quand ça va dans le bon sens, ça
peut. Bon, un mot du Mali tout de même. Je sais pas si vous avez été déçu aujourd'hui. Tiens, on a Boubacar au 32-16 qui est supporter malien, ça tombe bien. Boubacar, bonsoir.
Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut.
Bon, t'es déçu aujourd'hui par ce 1 partout où tu te dis que finalement, dans le tableau de marche, ça va parce que le Mali a 4 points et va se qualifier.
Bah écoute, moi j'ai trouvé qu'aujourd'hui le Mali a plutôt fait un bon match par rapport au premier match, même si ça se voit pas au niveau du résultat. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient moins crispés par rapport au premier match où je les ai trouvés un peu en dedans, notamment la première mi-temps. Mais là cette fois j'ai trouvé qu'ils sont bien entrés dans le match. J'ai trouvé que Tunisie c'était quand même pas mal. Bon, après, en tout cas, de mon point de vue, je trouvais qu'ils jouaient plutôt pas mal, même si je pense qu'au final, on aurait quand même pu gagner ces matchs si on n'était pas vraiment très maladroit devant les buts. Voilà, mais après, moi, je voudrais quand même, si vous me permettez, moi, je trouve que le fait, en fait, qu'ils ont, avec ces nouveaux formats, en fait, je trouve que ça enlève un peu de... En fait, de en fait de...
Oui, de tension au premier tour, tu veux dire?
Oui, c'est ça, en fait, parce que quelque part, enfin, voilà, je regardais ces matchs, je me disais, bah, de toute façon, si on fait match nul, on est quasiment sûr d'être qualifié. Et je pense qu'à un moment donné, les joueurs, ils se disent la même chose aussi. Ils se disent, bon, oui, ok,
il y a pas d'urgence,
bah, c'est pas là qu'on va se donner à fond. Donc moi, je trouve que pourquoi ils auraient pas, enfin, ils auraient pu se dire, bah, en fait, si c'est pour ramener d'autres équipes, pourquoi pas, mais ils pouvaient faire des poules où il n'y a que le premier qui est qualifié, par exemple. Enfin, quelque chose de ce
genre. Oui, ça fait moins de matchs, donc ça fait moins de revenus.
C'est vrai que le format laisse beaucoup plus place au calcul, laisse beaucoup plus place.
Ouais, c'est un peu chiant, c'est vrai.
Au niveau business, la CAF,
c'est malheureusement, Boubacar, ça n'arrivera pas, ne rêve pas.
Ouais. Ça, c'est bien dommage, parce que je trouve que les équipes, à un moment donné, quand ils gagnent un match ou même quand ils font deux défaites d'affilée, bah, ils se disent qu'ils peuvent toujours c'est les mettre en marche. Cette équipe du Mali, on fait partie des outsiders, mais en fait, on attend quand même un peu plus de cette équipe.
Le Mali fait toujours partie des outsiders, mais ils ne gagnent jamais.
Exactement. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. En fait, par exemple, typiquement, ces matchs, il faut être plus réaliste devant les buts. Enfin, ils ont mis des ballons à côté qui sont censés, en fait, mettre au fond. Et donc, c'est des matchs comme ça. On tombe, par exemple, contre la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Et c'est toujours comme ça. C'était pareil avec contre la Tunisie, hein, où c'était un match compliqué. Mais du coup, on perd finalement. On ne va pas à la Coupe du Monde suite à un CSC, en fait, un but gag. Et c'est toujours comme ça, hein.
Avec le pauvre Sicasso, là, vous vous souvenez, qui fait les erreurs individuelles horribles.
Exactement. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et je sens que ça va être encore la même chose, parce que je ne vois pas des progressions à ces niveaux-là. Je ne vois pas des mecs qui sont hyper concentrés du début à la fin. Et à un moment donné, ça va.
J'aurais tenté un petit parallèle entre le jeu malien et le jeu burkinabé. Assez dynamique, ça part vite devant et tout. Bon, c'est plutôt ce que
le jeu malien,
bien.
Il leur manque ils ont un très bon fond de jeu, ils ont une équipe qui a grandi ensemble. Je connais très bien Iblis Souma, ils ont vraiment grandi ensemble à travers les sélections. Ce qui va leur manquer, c'est un tueur devant le but.
Oui.
C'est un tueur, parce que dans la construction du jeu, dans la possession,
Aïdara Samasekou, c'est une des meilleures paires de milieux africains.
Énormément de percussions, comme tu dis, comme par rapport à. Un peu comme le Burkina Faso.
Ouais.
Mais oui, mais après, tu ne peux pas être bon partout. Là, s'ils avaient un tueur, quelqu'un qui sait mettre des buts, là, on les verrait, je pense, différemment.
Faites rajeunir Kanouté.
Il faut féliciter le travail du Mali dans la formation, dans le développement des joueurs. Le Mali, c'est une sélection qui participe régulièrement aux Coupes du Monde de jeunes. On a vu leur performance à la Coupe du Monde U20. Il y a une forme de régularité. On voit que ça exporte aussi beaucoup de jeunes talents. Même s'il n'a pas été très précis devant le but, c'est Koukouita, c'est quand même pas mal ce qu'il fait en Autriche. Donc, je pense que c'est aussi une expérience qui va permettre au Mali, petit à petit, de gommer, en fait, peut-être ces erreurs qui arrivent quand t'es pas expérimenté, qui fait qu'on place le Mali en outsider, mais je pense que sur le très long terme, le Mali va vraiment faire partie du top 5 africain.
Dans un instant, un mot sur l'Angola face à la Mauritanie, les matchs de demain, et puis Cameroun-Sénégal 24 heures plus tard, dans l'AfterCan. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, l'AfterCan.
Gilbert Bribois.
1h05 à Paris, 1h05 du matin, on est là pour l'AfterCan, minuit 5 ici en Côte d'Ivoire, Sébastien Basson, mais avec nous Aurélien Tirsin, Mohamed Bradji, et non pas Moustapha Hadji.
Moustapha Daleb, t'aurais pu citer Moustapha Daleb,
ouais. C'est vrai.
T'aurais kiffé. Hein.
Légende du Paris Saint-Germain quand même.
Tiens, ça me fait penser qu'il y a du Moustapha Daleb dans la revue de l'After, que Sébastien a là, qui est en kiosque, avec un gros dossier consacré à la CAN. Qui est magnifique. D'ailleurs, tiens, Julien Metz, notre ami et entraîneur, qui a écrit dans la revue de l'After, a été nommé aujourd'hui comme entraîneur du club rwandais de Rayon Sport, un gros club rwandais, donc on le félicite pour ce transfert de coach. Il part de son club congolais pour aller au Rwanda.
Il a fait un très bon travail à l'AS Auto et je profite de l'occasion que tu me donnes pour le saluer.
Exactement. La revue est en kiosque, partout. Et puis en plus, vous pouvez vous abonner sur l'after.media pour moins de 5 euros par mois. C'est cadeau. Angola-Mauritanie. Je disais tout à l'heure, on n'a pas vu venir ce match. Les Angolais, peut-être falloir quand même les prendre un peu au sérieux, ces gens-là. Ça fait un moment qu'ils n'étaient pas à la CAN. On se dit, bon, ils arrivent un peu dans leurs petits souliers, sans trop d'ambition. Puis nous, c'est les équipes qui ont les lusophones. On les suit pas trop, quoi, parce qu'on connaît pas les joueurs. Bon, il y a un joueur extraordinaire, c'est Gilberto, hein, bien sûr, il était titulaire. il a marqué. Quel joueur
C'est un joueur local.
Il joue là-bas, à Luanda. avec un jeune entraîneur portugais également à leur tête. C'est, avec le Cap Vert, on peut peut-être dire que c'est une des équipes un peu révélation, quoi.
C'est un peu une équipe révélation dans le sens où, tu sais, c'est un jeune entraîneur portugais. Il a fait, comment dire, évoluer toutes les catégories de l'équipe nationale. Il a été chez les jeunes, il a été chez les moins de 18, on va dire, l'équipe, comment dire,
Espoir.
Et en fait, à chaque niveau, il les a fait aller au CHAN. Donc, c'est quelqu'un qui connaît réellement le pays, réellement la nation, et qui a un amour réel pour l'Angola. Donc, à partir de là, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas une.
C'est pas si surprenant
c'est
que
pas
ça.
C'est pas si surprenant qu'il arrive à créer une certaine osmose. Après, leur niveau réel, je sais pas où ça va s'arrêter, mais ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. Ils ont une certaine vision du jeu, ils vont vite devant, c'est assez athlétique. Après, c'est assez friable derrière et dans tactiquement, mais en tout cas pour le premier tour, pour moi, ça fait plaisir à voir.
Ça s'appelle Pedro Gonçalves.
C'est un pays qui a déjà fait une Coupe du Monde aussi, mine de rien, à l'échelle de l'Afrique. Ouais, c'est pas
2010 non plus.
Ou 2006 même, ou
2006,
Togo,
dans le conflit
avec le Togo. 2006 aussi.
2006 avec le Togo.
Bon, ouais. Ça fait un petit moment, mais voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas une culture foot zéro, je sais pas, parce qu'effectivement, comme le Mozambique est un autre pays lusophone, mais l'Angola part quand même de moins loin. C'est un grand pays, démographiquement et pour sa superficie. Bon, voilà, et puis, en plus des beaux buts, hein, ils ont mis vraiment des beaux buts. Et t'as raison, Gilbert, et c'était un peu le moment de la sieste cet après-midi. Et puis, en fait, tu dis, chaque fois que tu rouvres les yeux, il y a un autre but. Et peut-être aussi là, le gardien qui n'a pas été non plus magique sur la frappe en Italie en deuxième période.
Et l'avancante, la Mabouloulou, est pas mal. Hein.
C'est d'autant plus surprenant que Nzola, qui était la star de l'équipe qui jouait à la Fiorentina, avait refusé de venir pour privilégier son club. Et tu vois que des fois, le fait que certains joueurs refusent de venir en sélection, ça libère les autres. Donc c'est une très bonne surprise. L'Angola, effectivement, qui avait fait un match très sérieux face à l'Algérie, tactiquement très bien en place, qui avait bien suivi le plan de jeu de Pedro Gonçalves. Et là, aujourd'hui, on aurait peut-être. Bon, après, la Mauritanie marque deux superbes buts sur des exploits individuels, des chevauchés fantastiques. Mais ça confirme aussi la bonne impression que l'Angola avait donnée suite au match nul face au Vert.
Voilà, en tout cas, match à but, match à spectacle.
Alors, beaucoup plus de buts que d'habitude, Gilbert.
Les défenseurs centraux apprécient peut-être moyennement.
J'apprécie les buts. En fait, marquer des buts, c'est bien pour un tournoi. Que tu sois défenseur. Ah oui, je suis défenseur central, mais. C'est bien, ça donne l'engouement.
Le sujet, c'était un peu porte ouverte quand même. Ce
non, c'est trop porte ouverte même. Ouais. Après, en tant que pur défenseur, je vois des choses qui, pour moi, c'est des crimes. C'est des crimes. Et ouais. Parce que même la manière, même le but, c'est le dernier but angolais de Gilberto. C'est bon. Avant,
sur le côté, là.
Il y a une balle en profondeur. C'est limite, il est un peu comme Bambi, le défenseur. Il ne voit pas trop le ballon. La balle, elle arrive là-bas. Il y a un peu de. Ça tâtonne dans la surface. Ça ne dégage pas vraiment. C'est un peu sur. C'est brouillon. Tu as au moins trois occasions de dégager le ballon ou de te replacer, de faire une intervention. Tu ne la fais pas. Et il revient avec crochet, frappe encore dévié. C'est bien pour eux. Mais vraiment, c'est défensivement très, très faible.
Après, je tiens à féliciter aussi la Mauritanie, en coaché par Amir Abdou, qui avait déjà réussi à amener les Comores en huitième de finale. Là, il enchaîne sa deuxième CAN après avoir. Il connaît très bien le pays. Lui aussi, c'est un coach qui a coaché le FC Nouadhibou, qui a travaillé avec la fédération avec plusieurs sélections, et là, qui est à la tête de la sélection A. C'est ces sélectionneurs-là, effectivement.
C'est un Marseillais,
Amir. Oui, Amir qui est Marseillais. Donc, qui sont au contact du football au niveau local, qui sont vraiment au contact des joueurs, au contact du championnat, qui arrivent une fois en sélection.
Là, le président de la Fédé, il est aussi le président du club de Nouadhibou. Donc, il a pris le coach et dit tiens,
vice-président de la CAF aussi.
Tu vas faire les deux, tu vas faire le club et la sélection.
Mais ils ne l'ont pas pris pour rien. Je pense que vu ce qu'il a fait avec les Comores, d'un côté, je pense qu'il y a un petit côté qui s'est dit il sait le faire avec une équipe vraiment, on va dire, même pas outsider, mais une équipe une équipe à laquelle on ne penserait jamais. Donc pourquoi pas, il l'a déjà fait une fois, peut-être qu'il peut le refaire deux fois et c'est encore possible.
Bon, avant qu'on parle du Maroc demain, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le Sénégal-Cameroun d'hier soir.
Enfin.
Tout à l'heure dans Génération Africa, là, qui sur la chaîne YouTube, ça chauffait entre Charles Itange, Walid Acherchour, tout ça, on reparlait de tout ce qui se passe. Toi, Sébastien, quel bilan tu fais là? Bon, parce que tout le monde du doigt. Alors Song, la Fédé, c'est toujours le bordel. Onana, comment se peut-il que tel imbroglio arrive? Moi, je retiens quand même que déjà Aboubakar est pas là. Parfois, on a tendance un peu à l'oublier. Mm-hmm. Et puis autre chose, c'est quand même t'as une génération de Camerounais là. Bah, en fait, on est loin du niveau de ses devancières, très loin même. Enfin, moi, la base, c'est ça quand même, avant de parler des problèmes, non ? Mais
les problèmes, ça fait partie de notre quotidien. Au final, j'ai joué en sélection pendant 8 ans, on a toujours eu des problèmes. Mmh. Aujourd'hui, la plus grosse différence, c'est qu'à l'époque, les problèmes, on savait les mettre de côté quand il fallait performer. Quand on avait le dos au mur, etc., on savait. Aujourd'hui, je trouve que la génération qui est là, ils sont beaucoup plus affectés par les problèmes et ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Les Cameroun, pour moi, ce n'est pas une équipe très talentueuse et je ne comptais même pas sur le talent de nos joueurs pour venir faire un résultat à la CAN. Ce n'est pas le talent pour moi. Comme je t'ai dit en rigolant, on a 5 étoiles, mais ça n'a jamais été basé.
Non, le Cameroun a un truc pour lui, c'est une sorte de mental incroyable.
On appelle ça le Hemley. D'accord, le Hemley, c'est le mental du Camerounais. Et ça, c'est quelque chose qui coule dans nos veines.
Maintenant, c'est un point sur lequel la UCC avait insisté en conférence de presse.
Il le sait très bien. Il le sait très bien. Et je pense qu'à ce niveau-là, le reste, la technique, ça va venir après. Ça vient dans un plan secondaire. J'ai jamais vu, même quand je jouais, on n'a jamais eu la possession du ballon. On savait bien défendre et on savait aller marquer. À un moment donné, 1-0. On ne mettait pas des scores aux gens. Et aujourd'hui, ce qui va changer, on peut parler de la fédération. Les gens, j'entends, vous faites des conversations de oui, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça. C'est spécial. Et c'est comme ça depuis très longtemps. Par contre, ce qui ne doit pas changer, c'est notre capacité à surpasser ça. À se dire que dans tous les cas, ça fait partie de notre quotidien. Et on a grandi avec ça. Aujourd'hui, c'est ça qui me dérange. C'est qu'aujourd'hui, je les vois, ils sont apathiques, comme si ils avaient perdu ça. Et là, parce que Vincent Aboubakar, pour le coup, il a ça. Je l'ai vu arriver, il a ça. Même si c'est pas le meilleur, il va te mettre ce but-là. Je rigole avec mes frères algériens. Ablida, c'est ça. Ablida, c'est cette confiance, limite arrogance, de on est Camerounais, on aime bien être dos au mur. Le problème du Cameroun, si tu regardes bien, Gilbert, c'est qu'on est toujours les meilleurs quand on se met nous-mêmes dans des problèmes. C'est devenu dans l'inconscient collectif pour prouver que impossible n'est pas Camerounais. Et à chaque fois, ça passe. Ça passe dans nos vies personnelles, dans la sélection. Mais maintenant, si tu perds ça, là, tu deviens une équipe limite lambda qui fait plus peur. Et tu te dis, même s'ils sont dans les problèmes, la théorie du danger, oui, mais il faut avoir ça. Et je pense que pour le prochain match, je peux pas enterrer mes frères camerounais parce que je sais ce qu'il y a.
Là, quand c'est le Cameroun, tu les enterres pas. Là, tu le dis. Là.
Non, parce que c'est des faits. Je peux pas. J'enterre personne. Hein. Moi, j'ai dit, je veux pas enterrer même la Tunisie. Je veux pas qu'on arrête de dire on peut pas enterrer cette équipe. Chaque équipe a sa particularité. Chaque équipe a sa chance. Maintenant, il faut connaître ses forces en présence. Le match contre le Sénégal, ils ont voulu jouer un football qu'ils n'ont pas. Les seuls moments où ils ont mis le Sénégal en difficulté, c'est dans les 10 minutes quand on a mis de la pression, on les a mis dans leur camp. Je parlais avec Khalilou Koulibaly pendant une heure après le match. Il m'a dit, Seb, s'ils avaient fait ça avant, on aurait été différent.
C'est Castelletto, mais le but.
Mais quand il met le but, mais même la pression qu'ils ont mis.
Non, la tête, c'est Koudou.
Voilà. Non, mais même comme ça, ça arrive comment ? Par une pression, par une présence, en étant plus direct, en étant au combat, en étant un peu plus méchant, en étant beaucoup plus... Quand je dis camer, ça veut dire que voilà, joue avec tes forces en présence pour briser le Sénégal. Hier, c'était pas possible. Le Sénégal, c'est une équipe qui est au-dessus tactiquement, techniquement, ça va à 10 000. Faut dire la vérité. C'était la première ligue, le Sénégal hier. C'était pas une histoire de CAN. Les enchaînements de passes, le bloc, comment il était compact, difficile. Le bloc camerounais, il s'est allé trop facilement. Ismaël Assar, il se retrouve, je parle avec Ismaël, il se retrouve dans les intervalles trop facilement. Sadio, il décroche trop facile parce que eux, ils ont une discipline qui est différente et ils ont des jeunes au milieu de terrain, c'est des dragsters. Si vous ne pas se mentir, Lamine Camara, Pape, ça. Shout out à FCMS, hein, Génération 36. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que si tu joues avec tes forces, si tu sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire ce que, soi-disant, on veut faire ce football léché qui ne nous appartient pas, les 10 dernières minutes, là, tu les mets sous pression. Et là, ils commencent un peu à se dire, attention, là, Khalilou Koulibaly, il a commencé à haranguer parce qu'ils ont senti que ça pouvait tourner. Mais si tu fais ça,
si Nkoudou marque le fameux but égalisateur, là,
on peut gagner. Par contre, c'est juste psychologique.
Par contre, on peut quand même.
Attends, excuse-moi.
Il y a un Sénégalais.
Notre ami Dibi.
Merci.
Il a été dit tyrambique sur le Sénégal. Sébastien, tu peux rien rajouter, en fait, là.
Non, je remercie de ça. Mais après, on peut dire que si Nkoudou met sa tête, peut-être que le Cameroun peut gagner. Mais en première mi-temps, le Cameroun, ils n'ont pas vu le jour. Si on met nos occasions, on peut mettre 2-3-0 en première mi-temps, le match, il est plié. Notre milieu de terrain, nos trois, ils ont bouffé le milieu de terrain camerounais. Sadio Mané a fait un bien meilleur match que le premier match. à tous les niveaux, ouais, était au-dessus du Cameroun. Moi, je pense que c'est nous qui avons donné de l'espoir aux Camerounais en ne tuant pas le match assez tôt. Après, la preuve, c'est que quand ils ont mis le 2-1, on a remis un coup d'accélérateur, on a mis le 3e, on aurait même pu en mettre en 4e.
Je pense, bon, j'appelle pas ça un coup d'accélérateur. J'appelle ça que tenter. Non, c'est pas un coup d'accélérateur, ouais, que t'as mis. Vous avez mis un 3e but en compte, ce qui est normal. Quand tu pousses dans le déroulement d'un match, c'est normal. Tu verras, vous avez des joueurs de qualité. Comment il s'appelle, Idrissa Ganaga, il est rentré, il est frais, il est parti débordé, il a mis un centre entré. La qualité de Sadio Mané, ça joue à des détails. Aujourd'hui, le football, la différence que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que le football, c'est pas le basket. C'est-à-dire que les histoires de stats, quand tu regardes la feuille de stats, ça peut pas te donner l'équipe qui va gagner le match. Le football, c'est une science qui est inexacte. Avec des si on avait tué le match, ça fait partie du jeu. En fait, quand les gens ils disent ouais, mais si on avait tué le match, ils auraient pas existé, dans les deux sens, hein, ouais, que ce soit pour le Cameroun ou n'importe quelle équipe. Ouais. Pour moi, c'est pas que ça n'a pas sa place, mais c'est des suppositions. On parle dans le conditionnel. À ce moment-là, le match, il est ce qu'il est. Ça fait partie du match. Le Cameroun devait faire plus. Et ils ont eu des occasions, le Sénégal. Et le Cameroun, ils avaient des opportunités.
C'est ça.
Ils avaient des opportunités, mais offensivement parlant, c'était trop pauvre. Parce qu'ils essayaient de rentrer, etc. Et ils n'étaient même pas physiquement prêts, ou en tout cas au niveau des Sénégalais. L'intensité des Sénégalais, elle était extraordinaire.
Oui, c'est un autre niveau, ça, c'est sûr.
Elle est extraordinaire. Donc pour jouer à ce niveau-là, les Camerounais, c'était toujours en retard, toujours un mètre derrière. Et quand tu laisses même 30 cm à Lamine Camara ou à Pape Matassar, ou même à Bamba Dieng, à qui tu veux, Ismaël Assar, ça va vite.
Moi, juste une question.
Dis-moi.
Moi, c'est comment le Cameroun a commencé le match par rapport à son sélectionneur, Rigo Berson, qui fait une conférence de presse où limite il dit on est les meilleurs, on est les plus bons, on est les plus forts. Moi, je trouve qu'il a manqué de modestie. Son équipe ne met pas à pied devant l'autre. T'as pas d'attaquant, tu ne prends pas Choupo-Moting. Moi, je pense qu'il aurait pu vous faire du bien. Parce qu'avec les centres que vous avez.
Quand il ne prend pas Choupo-Moting, il est Aboubakar. Donc, c'est sûr qu'ils sont Aboubakar.
Oui, mais là, tu mets all-in sur Aboubakar. Ouais. Et si Aboubakar, il est pété, t'as plus rien derrière. Et c'est ce qui se passe, en fait.
Et même, tu vois ce que tu parles. On parle beaucoup de ce manque de modestie, ouais, etc. En fait, on va dire qu'il y a une certaine narrative. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique ou partout, quand t'entends les Camerounais dire qu'on est le continent, c'est vrai, on est un peuple fier. Parce que ça a fonctionné et que ça joue dans la tête des gens. Dans tous les cas, tu veux pas, ça joue dans la tête des gens. Donc le mindset, c'est comme le trash talk. Quand tu parles à quelqu'un, tu rentres dans sa tête. Et le Camerounais, ça fait partie de nos caractéristiques de rentrer, de gagner le match. J'ai joué des matchs avec Rigo face à Didier Drogba, où avant même le match, juste en tapant ses crampons au sol, il rentrait déjà dans sa tête.
Mais qui l'a aujourd'hui, ça? Moi, ton leader en milieu, c'est Zambo. T'as l'impression qu'il baisse la tête sur le
match.
Mais
non, aujourd'hui, c'est ça mon problème. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, ça. Ça, c'est ça qui se perd. C'est ça où j'ai du mal à voir à quel moment ça va se réveiller. C'est ça qui va m'inquiéter.
Et puis il y a des incompréhensions en interne. Tu vois, on parlait de problèmes à la fédération qui peuvent être inhérents sur plusieurs années. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Mais quand Samuel Eto'o arrive à la FECA Foot, il arrive comme la personne qui va résoudre ses problèmes. Il est aussi attendu pour ça. Et par rapport à son mandat, bah, ça ne tient pas du tout ses promesses.
Non, aussi... Je ne suis pas d'accord. Dans le sens où, parce que vous faites un raccourci, il vient pour essayer de résoudre une situation. En fait, les gens, ils pensent que parce qu'il vient et qu'il est tout Eto'o qu'il est, parce que Samuel, c'est quelqu'un à tous les niveaux, il va forcément pouvoir régler. En fait, on parle d'une nation.
Oui, mais lui-même, quand il s'est présenté, il a clairement exposé son objectif de succès.
Tu connais un politicien qui va venir dire que c'est quoi, je vais rien faire dans le pays, mais on va pas t'aider.
Mais quand Samuel Eto'o le dit, tu comprends bien que
t'es parti voter. Quand tu vas voter pour un parti, parce qu'il y a un programme. Et dans le programme, il va pas dire, bon, tu sais quoi,
on va refaire l'histoire de la FECA Foot, parce qu'on pourrait faire une émission. Je rappelle qu'il y a un bouquin qui est sorti d'un journaliste camerounais qui s'appelle L'Arnaque, en parlant de Samuel Eto'o. Bon, on pourra y revenir dans un soir sans match, ouais. Mais apparemment aujourd'hui il a monté le ton quand même, Eto'o, devant le staff, en disant les gars, maintenant c'est qui tout double, on se qualifie ou vous dégagez, quoi. Bon, disons, évidemment, on n'imagine pas que s'il y a élimination, il n'y ait pas du changement. Mais enfin voilà, apparemment aujourd'hui c'était un peu chaud quand même.
C'était chaud et on pouvait s'y attendre. Mais cette pression là, moi j'ai envie de voir cette pression. Il faut que les gens soient sous pression.
Parce que je joue la Gambie, qui a priori est pas bien quand même. Là, ce serait vraiment la cata absolue de pas gagner contre
ça,
la Gambie.
Ça serait la catastrophe absolue. Et là, ils sont, comme on dit, à bien le dire, le dos au mur. C'est là où on va voir ce qu'ils ont réellement dans le ventre. Et ça va plus loin que l'histoire de technique. Et là, on a besoin de voir une union sacrée. je ne sais pas si ça va vraiment arriver, mais en tout cas, il y a un intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est que le vert ou jaune, il gagne. Donc à partir de là, qui que tu sois, mets ton esprit personnel de côté. Et Samuel, je pense qu'aujourd'hui, il l'a mauvaise. Il l'a mauvaise. Et le problème, c'est qu'il est toujours un peu joueur dans l'âme. Et que quand il sort comme ça, il fait des sorties comme ça, c'est le joueur qui parle. C'est celui qui, lui, a toujours gagné, qui a réussi à retourner des situations. Et dans l'opinion publique, ou on va dire au sein même du staff ou de la délégation, des fois, c'est ça qui peut être un peu mal pris parce qu'on est très protocolaire en Afrique, au Cameroun surtout, très protocolaire. Monsieur le président, c'est pas un joueur. Donc, mais lui, c'est un champion dans l'âme. Et c'est ça, je pense que c'est sur ça qu'il lui-même, des fois, il doit, c'est pas qu'il s'oublie un peu, mais c'est plus fort que lui, c'est dans les émotions. Et c'est sacré des déséquilibres.
Ah justement, sur la Gambie, il y a des déclats d'un joueur guinéen hier là, qui fait le tour. Là. C'est Aguibou Camara. Je cite, l'équipe gambienne est nulle. Ils ont fait que de défendre pendant 90 minutes. Leur entraîneur qui ferme sa bouche et qui donne des leçons à ses joueurs. Pam, apprends ça. Je pense qu'il s'est passé entre eux. Mais,
c'est qui dit ça
Aguibou Camara, le guinéen.
Ah, bah ouais.
Et Aliou Cissé, alors des news. Hier soir, Aliou Cissé a été... hospitalisé, alors il a fait un malaise et puis là aujourd'hui tout va mieux, il est à nouveau avec son équipe, donc voilà les dernières infos. Je sais pas, Dibi, c'était les trucs en plus.
J'ai entendu problème gastrique.
C'est ce qu'on a dit.
C'est le même problème qu'il a eu au Qatar. En fait, il a eu un problème gastrique. C'est un problème gastrique, mais au Qatar il avait eu aussi à un moment donné un épisode comme ça et apparemment c'est dans la continuité de ce qui s'est passé au Qatar. Ça a été bien géré, ils ont fait leurs examens. Et tout est rentré dans l'ordre, mais c'est pas si grave que ça.
Mais apparemment, Rigobert Song lui aurait donné une bouteille d'eau.
Ah bon?
Non. Non, bah, vous dites pas ça, c'est une déconne, là.
Je vais vous reprendre. Attention,
blague.
Non, t'inquiète pas, il est prêt à Liu, t'inquiète pas.
Non, mais c'est un type, il doit. Pour le dire prosaïquement, il fait peut-être des nœuds à l'estomac, quoi. Voilà, le stress, la pression, ça existe. Hein. Après, pourtant, ça se matérialise physiquement parfois par des petits soucis.
Pourtant, quoi. C'est l'un des coachs qui a proposé le meilleur jeu sur cette compétition, le plus de cohérence. Ah, oui. Et vraiment, c'est un plaisir de regarder cette équipe sénégalaise.
Ah, une question, quand vous dites le coach, il a proposé un jeu. Vous pensez sincèrement que le coach, il propose un jeu ou qui est l'équipe du Sénégal pour la connaître très très bien et connaître ce qui fait leur force. Le coach, il est là. Mais il a un staff et il a une équipe très 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 mature. Ouais. Ça veut dire que les joueurs qu'il a, dans ses décisions, dans comment ils vont jouer.
Il grandit avec eux, ouais, il est là depuis 2016.
C'est d'un commun accord. Ils ont eu beaucoup de problèmes au départ avec Aliou. Et je sais parce qu'il y a de compréhension, j'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Mais ils sont arrivés à. D'un commun accord parce que quand tu as des joueurs de ce niveau, tu te dois de les concerter. Tu peux pas faire tout seul.
Bien sûr, c'est un coach qui s'est réinventé. Là, on parle de l'apport de Pape Matar Sarr, de Lamine Camara, de Pape Gueye, la montée Ismaël Assar qui est toujours là, Sadio qui est là. D'accord, les joueurs ont leur importance. De toute façon, même Belmadji le disait en 2016. C'est que son succès, il est fait par les joueurs. Mais l'entraîneur derrière ça, depuis 2016, l'histoire qui est construite avec le Sénégal, la continuité.
Non, chapeau à lui. Tu sais, pourquoi chapeau à lui, c'est parce qu'avec les joueurs qu'il a, les tauliers qu'il a sur le banc, il a eu le courage, même s'il y a eu des blessures, de laisser Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Bamba Dieng. Ça veut dire qu'il a des Cheikhou Kouyaté, Idrissa Ganagay sur le banc. Et c'est là où tu vois que le Sénégal, ils sont très très forts. C'est parce que tu vois le comportement, le body language des gens sur le banc, avec les petits qui sont au terrain. Ils sont avec eux à 100 000%. Et ça, c'était extraordinaire.
Dans un instant, les matchs de demain, les gars. Donc la Fédération sénégalaise, vu tout ce qu'on dit, il serait bien quand même de lui filer la thune qu'il lui doit depuis 6 mois, parce qu'il fait le boulot correctement, quand même, Aliou Cissé. Donc, voilà. Allez, à tout de suite. On va notamment parler du Maroc face à la RDC demain.
RMC, l'After CAN.
Gilbert Brivois. Merci.
1h25 du matin à Paris, minuit 25 ici à Abidjan, Sébastien Basson, Gala Aurélien, Tirsin, Mohamed Bradji, journaliste algérien et Dibi, auditeur de l'After et supporter sénégalais.
Et du PSG.
Et du PSG. Bah,
tu vois qu'on peut s'entendre.
Mais là, c'est pas le sujet.
Voilà, on a trouvé le sujet. C'était un entente.
Le PSG qui a gagné en Coupe de France, hein, mais ça c'était l'after d'avant, juste après le match jusqu'à minuit, vous pouvez podcaster aussi. Demain le match du jour c'est Maroc-RDC, c'est pas qu'on n'aime pas la Zambie et la Tanzanie, mais bon là on a quand même une belle affiche. Maroc-RDC demain donc à 15h heure française, 14h heure ivoirienne. Vous voyez un match très déséquilibré ou pas tant que ça? L'RDC, c'est souvent un peu mystérieux. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre, Sébastien.
Non, je pense qu'il y aura vraiment une vraie belle opposition. La RDC, ils ont manqué énormément d'efficacité pendant le premier match. Ils se sont créés énormément d'occasions. Ça jouait bien, ça va de l'avant. Il y a de la jeunesse, il y a de la fraîcheur. Le Maroc, ils ont mis tout le monde d'accord pendant le premier match. Ils sont sûrs de leur force. Donc, ça va donner pour moi un match un peu ce que j'appelle à l'européenne, dans le sens où il y aura. Les deux équipes sont conscientes de la force de l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lancer trop vite dans la bataille parce que tu as peur de te faire contrer. Donc, je pense qu'il y aura un bon round d'observation. Après, ils vont être obligés, l'RDC, d'aller chercher. Le Maroc, ils sont vraiment forts. Dans le sens, ils sont mentalement sereins et ils frappent fort. Ça veut dire que quand ils savent défendre, et après, quand il faut partir, et ils ont de la qualité. Donc, ça va être un match super intéressant, je trouve.
Et moi, la RDC, si j'étais à leur place, je ne saurais pas quoi faire parce qu'ils vont très vite vers l'avant. Après, leur défense, ce n'est pas l'assurance touristique non plus. Donc, si tu attends,
les gars. J'aime bien Bemba.
J'adore.
Il est très solide.
Il appelle le demi-dieu là-bas à Kinshasa.
Mais tu m'étonnes. Sauf qu'autour de lui, c'est là peut-être moins l'assurance touristique. Devant, tu as un Samuel Moutoussamy qui n'est pas le meilleur récupérateur du monde. Par contre, avec Kakuta, Bakambu, etc., ça peut aller très vite vers l'avant. Ça peut régaler, ils l'ont fait dans la première journée. Ouais, exactement, sauf que des gars comme ça, est-ce que physiquement, si tu te fais rentrer dedans, t'as du Amrabat, Boufal, Nesiri, ça va être très costaud si ils se mettent très haut sur le terrain. Ounahi, la RDC, si moi je pense que si la RDC explose dans les 10-15 premières minutes, ça peut aller largement en faveur du Maroc.
Est-ce qu'on peut voir un Maroc un peu en mode Coupe du Monde qui attend beaucoup plus qu'il ne fait le jeu contre d'autres adversaires un peu moins forts théoriquement en Afrique?
Je pense pas, parce que là les conditions ne sont plus les mêmes. Là, le Maroc est clairement attendu comme favori. Le premier match qui a été fait face à la Zambie,
Tanzanie, regardez, t'as des joueurs de ballon, tu vois, Kakuta et tout ça, comme le disait Aurélien, ils peuvent produire le jeu. Et là, le Maroc, s'ils te la font comme contre le Portugal et l'Espagne,
oui, peut-être que Sébastien de Sable de son côté va donner des consignes pour attendre le Maroc. Il faut aussi que le statut a changé. Ça va être une vraie opposition.
Leur coach aujourd'hui, c'est leur meilleurs atouts, parce que aujourd'hui il a travaillé de source sûre sur le fait d'oublier la Coupe du Monde, parce que c'est pas du tout les mêmes compétitions. Donc quoi tu t'es reposé en Coupe du Monde, si voilà la clé,
c'est
là
ça, la difficulté du Maroc, c'est qu'il faut qu'il se réinvente.
Il faut qu'il se réinvente. Et en fait, pas se réinventer, je dirais, il faut qu'il réajuste. En fait, il faut qu'il régule, parce que en Coupe du Monde, ils ont été tellement renforcés par un certain système et le moment, tout a pris. Tu pourrais très facilement tomber dans le truc de, tu sais quoi, on a fait ça, ça va fonctionner. Et si tu fais ça, t'as de fortes chances d'aller vers une désillusion terrible, parce que la CAN, c'est pas la même chose, les conditions, c'est pas les mêmes, les adversaires, c'est pas les mêmes. Et eux, aujourd'hui, les Marocains, dans leur tête, ils se disent quand même, on a fait quelque chose.
Puis le Maroc a pris de l'expérience, parce que CAN 2019, ils finissaient avec 9 points leur phase de groupe pour sortir en 8e face au Bénin. Je pense aussi que Walid Regragui, qui est très minutieux dans son travail, en est conscient. Donc il y a tous ces éléments-là qui vont jouer, et le match de demain va nous donner aussi une première indication. Mais je pense que déjà le Maroc va être beaucoup plus attendu. Je pense que même la stratégie des Congolais, qui sont une équipe très très attrayante, qui aime bien tenir le ballon, qui aime bien proposer quelque chose devant, va être aussi peut-être de les attendre pour que la défense marocaine puisse se découvrir.
Bon, de la fin.
Regragui, je pense qu'en plus il est excellent, parce que même après le 3-0 contre la Tanzanie, il a dit tout n'était pas parfait, loin de là, il va falloir s'améliorer. Donc voilà, ça commence parfaitement pour lui, et puis il veut encore hausser le curseur. Donc a priori, feu vert pour les Marocains.
Demain, ce sera sur RMC, sur la radio digitale d'RMC, sur l'appli. Vous pouvez suivre tous les matchs en intégralité, vous le savez. N'hésitez pas à télécharger l'appli RMC, et vous aurez donc la radio 100% CAN à dispo. Merci à tous d'être venus dans notre studio d'Abidjan. Si vous êtes dans le coin, on est au Novotel Plateau. Si vous voulez passer, vous êtes tous très bienvenus. On fait table ouverte le soir. Merci Dibi, Mohamed, merci.
Merci.
À très bientôt. Merci Aurélien, merci Sébastien. À très vite. Et nous, à demain soir, minuit, pour un nouvel After CAN. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan.
Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.